18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Ah, quel plaisir de vous retrouver, chers amis auditeurs. Vous savez que c'est toujours un plaisir, hein, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et c'est une excellente chose. Alors, vous le savez, comme tous les soirs, eh bien, nous commentons, nous analysons, mais aussi nous décryptons l'actualité. Alors, ce soir au menu, qu'est-ce qui vous attend? Je vous embarque avec moi pour parler d'abord avec l'ancien commandant de police, hein, celui que vous kiffez, que vous aimez, c'est Jean-Pierre Colombiès, hein, l'incalifiable. Il est avec nous sur le plateau déjà prêt à dégainer. Il est le porte-parole aussi des policiers indépendants. Je me pose toujours des questions, hein, les policiers indépendants, ça existe ça? Non, c'est l'association des policiers indépendants. Attention, l'association, on parle
je
bien
pourrais,
de ça.
Je pourrais répondre.
Et ensuite après, oui, vous répondrez tout à l'heure. Et ensuite après, tout à l'heure, eh bien, j'ouvrirai l'antenne. Là, d'ailleurs, dès maintenant, au 0153 48 3000 pour vous, tout simplement vous suggérer de venir parler avec l'ancien commandant de la police pour tout ce qui vous concerne dans votre quotidien. Divorce, plainte, que sais-je, main courante, pas main courante, je dois aller au commissariat pour que sais-je, bref, toutes les questions sont bonnes à prendre ici au 0153 48 3000. Et je pense que Jean-Pierre Colombiès se fera plaisir, en tout cas, de vous répondre. 18h30, 19h30, vous le savez, comme tous les soirs ici, c'est les débatteurs influenceurs qui viennent commenter l'actualité. Alors, on va parler de la réforme des retraites, parce que Elisabeth Borne a décidé de revoir un petit peu la configuration, paraît-il. Clochette. Voilà, il a compris, Anthony. Ah bon, un report à 64 ans, 65 ans. Bon, on voit bien que le gouvernement Borne commence à, hein, à fléchir. Bon,
très bien.
Paraît-il. Très bien, je sais pas. La facture d'électricité. Eh bien, pour certains, l'exorbitante. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, figurez-vous qu'il y a le cri d'alarme de certains, des restaurateurs, des boulangers. Ça crie dans tous les sens. Que se passe-t-il avec la hausse des prix? Je vous promets, certains même, vous savez quoi, ils ont vu leur facture
multiplier par
tripler.
Plus que ça.
Fois 4, fois 5, etc. C'est impressionnant. Eh bien, on va en parler. Omar Sy, la vedette, la star internationale. Mais il paraît-il, il a des propos qui ont, une interview qui a provoqué des polémiques. Elle fait une comparaison de la guerre en Ukraine avec la guerre en Afrique. Il dit quand c'est en Afrique, en gros, c'est pas pareil que quand on le traite la guerre en Ukraine. Et ben ça a provoqué une polémique comme pas possible. Et ben on va en parler. Pourquoi les propos d'Omar Sy sur la guerre en Ukraine font polémique? Clochette. Oui, la grève des médecins libéraux est reconduite. Sauf que nous, on se pose des questions. Quelles sont les alternatives? Quelle est la véritable ampleur de cette mobilisation? Est-ce que ça concerne quelques médecins, finalement? Ou est-ce que ça concerne l'ensemble des médecins libéraux? Quelle solution? Parce que c'est aussi ça. En attendant, les médecins libéraux se mettent en grève, mais de l'autre côté, les hôpitaux, comme nous l'expliquait hier le docteur Majid Soussine, c'est l'effondrement, figurez-vous. Clochette. Et puis, attendez, j'ai oublié. Les infirmiers qui sont, oui, les infirmières, surtout le personnel soignant, qui sont en arrêt maladie. Et bien ça, vous savez quoi? Ça a provoqué une paralysie. Et bien voilà. Voilà le programme qui vous attend. Au 0153 48 3000. C'est parti tout de suite, l'interview du jour, avec les questions-réponses de Jean-Pierre Colombiès. C'est parti.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Le standard est ouvert et Anthony est prêt à dégainer, comme chaque soir. Il est dépassé, surpassé même. Non, surpassé, non, il se surpasse parce qu'il est dépassé. N'est-ce pas, Anthony?
N'est-ce pas? Bonsoir tout le monde. Alors oui, c'est une course contre la montre. C'est vrai à chaque fois, mais c'est sportif, mais j'aime bien.
Ouais, il aime ça, donc voilà, il kiffe. Donc allez-y, 0153483000. Le standard est ouvert. Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police. Bonsoir et bonne année.
Bonsoir, mais je profite de l'occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux avec 2-3 jours de retard à tout le monde, à tous les auditeurs, que j'ai toujours plaisir.
Vous savez qu'on a tout le mois de janvier pour souhaiter les vœux.
Pardon?
On a tout le mois de janvier.
Mais j'en profite là, de tout de suite pour.
Exactement. Vous vous portez bien?
Satisfaire à la tradition.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année?
Bah, moi, ce que me souhaiter, je crois que ça concerne tous les Français, de l'apaisement. Ouais. Nous souhaiter de l'apaisement, je pense notamment au théâtre, ouais. puisqu'on a beaucoup souffert les années précédentes avec le Covid, les manifestations.
Et on continue de souffrir.
Le monde du spectacle a beaucoup souffert et souffre encore de ce qui s'est passé, puisque plus de 40% des spectateurs ne sont pas retournés dans les salles. Et c'est un vrai problème, puisque l'art vivant doit vivre. C'est le cas, enfin, c'est ni tôt que de le dire. Il faut soutenir l'art, mais pas simplement parce que, faut pas faire l'aumône de l'art, hein, mais parce que c'est essentiel.
Tout absolument
essentiel.
Jean-Pierre Colombiès, vous savez que le porte-parole des policiers indépendants, c'est une association, il est là pour répondre à vos questions, ancien commandant de la police notamment. Répondre à vos questions, vous le savez, régulièrement ici même sur l'antenne, on le fait et puis ça marche super bien. Donc comme ça marche, eh bien on le reconduit systématiquement de temps à autre, vous le savez, le commandant, l'ancien commandant de la police répond à vos questions. Vous avez des difficultés dans votre quotidien avec vos enfants lorsqu'il y a une garde à vue, vous voulez notamment porter plainte ou poser une main courante, quel est l'un ou quel vous hésitez, vous ne savez pas, est-ce que c'est l'un ou l'autre qui évidemment peut peser lorsque vous allez au commissariat. Toutes les questions sont les bienvenues, vous venez au 0153 48 3000, nous vous attendons tout de suite. Jean-Pierre et Colombiès vous attend au 0153 48 3000. En attendant vos appels, et Anthony est prêt donc à récupérer vos appels au téléphone, nous allons aller direction Vaux-en-Velin, parce que on parle d'une descente aux enfers d'une copropriété, pardon, aux mains des dealers. Alors, Lyon, aujourd'hui, on parle d'une baisse de 17% du nombre de dealers en 2022. Vous répondez quoi, Jean-Pierre Colombiès, vous dites quoi? C'est un sujet que vous connaissez notamment. Je vous donne la parole.
Oui, disons que quand j'entends dire qu'on annonce une baisse de 17%, je serais curieux de savoir.
Et c'est paradoxal. Alors on parle de ça, mais on dit le retour des dealers aussi.
Enfin, Adil, on va pas se cacher. C'est de la langue de bois, c'est du langage institutionnel. Je vois pas comment on peut mesurer un taux de baisse de dealers. Je ne sais pas comment le ministère de l'Intérieur procède pour établir des statistiques sur un milieu qui par nature est, je dirais, caché, dissimulé. Donc tout ça, c'est de la communication. La réalité que vivent les gens dans les cités où le trafic est constant, c'est une catastrophe, c'est un cauchemar permanent, parce que contrairement à ce que dit le gouvernement, ou ce que disent certains interlocuteurs institutionnels, c'est pas des zones de non-droit, ce sont des zones où il y a un autre droit, dorénavant, la droit des... Ce qui se passe à Vaux-en-Velin, je suis désolé, mais ça se passe dans plein d'autres endroits en France où les dealers ont la main mise.
Ils disent, il y a le député, vous savez, LR, qui dit la déclaration suivante. Les consommateurs sont tout aussi responsables que les dealers de la tenue de ces points de deal.
Oui, mais c'est un tout.
Si les gens alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre quand, évidemment, on a ce type de déclaration du député LR?
Oui, mais chacun, il va de la sienne. Hein.
Du Rhône, hein, le député du Rhône.
Il y a souvent une surenchère politique.
Alexandre
rhétorique,
Vincent Day.
Une surenchère rhétorique en la matière, mais je crois qu'il ne faut pas se fixer sur les déclarations des uns des autres. La réalité, c'est que, oui, on vit dans une société aujourd'hui qui consomme beaucoup de produits stupéfiants, mais posons-nous la vraie question, pourquoi? Pourquoi y a-t-il une
surconsommation ? Si j'appelle les parents, justement,
oui,
la question.
Il n'y a aucun problème.
Si vous voulez donner des conseils justement sur les gamins qui se retrouvent aujourd'hui à consommer
une forte
consommation de drogue, comment les parents doivent-ils agir avec leurs enfants? 0153 48 3000, vous pouvez, si vous avez des soupçons concernant vos enfants, et puis même d'ailleurs, vous pouvez venir aussi interpeller donc le Jean-Pierre Colombiès, qui est notre invité aujourd'hui et qui évidemment répondra à vos questions.
Oui, non, mais le monde des stups, c'est un monde très particulier. Si des auditeurs m'interpellent là-dessus, m'interrogent là-dessus, je pourrais leur donner des pistes. Mais il n'y a pas de recette miracle. Effectivement, beaucoup de gens consomment. S'ils consomment, c'est que la société va mal. C'est ça le problème. C'est qu'on martèle notre espace public de messages anxiogènes et que c'est le syndrome, c'est le baromètre d'une société qui ne va pas bien. Clairement. Donc c'est ça aussi qu'il
y a de plus en plus de consommateurs, c'est ce que vous êtes en train de nous dire?
Oui, ça s'est généralisé, il faut être clair. La consommation de cannabis, hein, principalement, ça s'est généralisé. Il y a une grosse demande, ce qui fait qu'il y a un gros deal, bien évidemment. C'est pas tout à fait faux ce qu'a dit l'élu. Il y a du deal, donc, parce qu'il y a beaucoup de demandes.
Donc les consommateurs sont tout aussi responsables.
Bien évidemment, mais de la même façon. Mais on parlait de l'hôpital tout à l'heure, Adil, mais il y a aussi beaucoup trop de gens qui vont à l'hôpital pour des bobos, pour rien. Moi, j'ai connu une époque, nous avons connu une époque, tous ceux qui ont notre tranche d'âge à peu près, ont connu une époque où on n'allait pas voir le médecin parce qu'on avait un petit rhume, une bobologie, on va dire. Hein, c'est le qualificatif qui est souvent employé en la matière. C'est vrai que beaucoup de gens se précipitent dans les centres hospitaliers.
C'est ce que disait le médecin hier.
Oui, mais c'est une réalité.
Il disait ça. Il ne fallait pas se précipiter, s'empresser justement aux urgences, juste parce qu'on a de la fièvre.
Et bien sûr, mais ni aux urgences, ni même voir un médecin pour quelque chose qui est relativement bénin. Une fièvre, une toux, je dirais un état fébrile, ne nécessite pas nécessairement d'aller voir un médecin. Un peu de vitamine
D'être
C.
D'être examiné,
ouais. Ouais, un peu de vitamine. Comment on faisait faisait avant, quoi. On faisait comment? Moi, j'allais pas toutes les semaines voir mon
médecin. Des méthodes de grand-mère?
Complètement. Mais ouais. Déjà, tout simplement, en se préservant, en prenant soin de soi, tout simplement. Hein. On parle beaucoup du Covid encore actuellement. Alors, c'est marrant parce que ceux qui en parlent beaucoup sont parfois des gens surpoids.
Tiens, voilà, vous voulez. Non, mais je saisis au bon ce que vous venez de dire. Tiens, ça m'intéresse, les auditeurs. Je vous sollicite, là, justement. Je vous sollicite tout de suite parce que je voudrais vous entendre. Est-ce que quand vous-même, vos enfants, votre entourage, quand ils ont de la fièvre, vous vous empressez d'aller aux urgences ou d'appeler un médecin, donc, vous savez, qui vient à domicile, SOS médecin, ou est-ce que vous allez voir votre médecin le lendemain? Est-ce que vous avez une inquiétude? Est-ce que tout ça vous amène à devenir de plus en plus anxieux? 01 53 48 3000, est-ce que dès lors où vous avez une douleur, vous saisissez tout de suite aussitôt le médecin ou les urgences, vous les interpellez? 01 53 48 3000, je vous sollicite, je vous attends au standard. Jean-Pierre.
Oui, c'est un peu comme le commissariat, j'ai envie de vous dire. Tout le monde se précipite aussi au commissariat pour déposer plainte pour un oui, pour un non. Et c'est pas fait pour ça. Vraiment, ça doit être le dernier recours. Avant toute chose, il faut déjà se parler, trouver des solutions pour désamorcer des situations complexes.
Alors pourquoi on s'empresse alors d'aller?
Mais parce qu'on invite les gens à le faire. Parce que je trouve qu'on infantilise beaucoup trop la population.
Pourquoi dès la première fièvre, on se jette sur le 18, le SAMU, on les appelle pour leur dire que.
Je pense que la communication de.
Pardonnez-moi de vous interrompre. Je vous pose la question. Est-ce qu'on vit dans un monde anxiogène?
Oui, bien sûr. Mais bien sûr, il suffit d'ouvrir son poste. Vous savez, il y a des gens qui sont constamment scotchés devant leur écran de télévision à regarder soit BFM, soit d'autres chaînes, soit CNews, j'en passe des meilleurs, il y en a plein d'autres, qui martèlent l'idée du risque sanitaire et du risque sécuritaire.
Prenons-nous d'abord
en charge.
Prenons-nous en charge. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Pierre Colombien, c'est l'ancien commandant de la police? Sabrina de Montreuil, bonsoir Sabrina.
Bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue, bonne année.
Merci, bonne année, meilleurs vœux.
Ben, je vous remercie infiniment, bienvenue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Sabrina?
Je suis professeur des écoles.
Ah ben, ça tombe bien.
Professeur des écoles, pourquoi ça tombe bien?
Non, mais c'est un sujet qui est gravissime en ce moment sur l'éducation nationale. Enfin, je veux pas lui spolier sa prise de parole, mais j'ai des amis qui sont enseignants. J'en parlais pas plus tard que pendant le Nouvel An, où il y a une situation de catastrophe totale. Il y a un vrai état, on parle beaucoup de l'hôpital et des services de sécurité, mais l'enseignement est en crise.
Vous êtes d'accord, Sabrina? Avec Jean-Pierre?
Bien sûr.
Complètement. On vous écoute sur le sujet, alors, concernant ce que disait Jean-Pierre Colombiès tout à l'heure.
Alors moi, j'appelle en tant que maman. Alors, je suis pas du tout anxieuse concernant les états fébriles des enfants ou du mien. Effectivement, moi, j'appelle souvent mon médecin juste pour avoir un justificatif pour rester auprès de mes enfants.
Ouais.
Parce qu'on a des droits pour enfants malades, etc. Et sans ce justificatif, malheureusement, on perd nos droits et on perd une journée de travail. Je ne mets pas forcément mes enfants sous antibiotiques tout de suite, etc. J'applique évidemment plein de recettes de grand-mère. Mais voilà pourquoi on va chez le médecin.
Allez, Jean-Pierre.
Mais c'est pas la généralité, fort heureusement. Hein. Moi, je parle surtout des urgences et des services hospitaliers qui sont sur-sollicités. Je ne dis pas que tout le monde est infondé à y aller, mais... Enfin, on est tous allés aux urgences. On s'est souvent rendu compte qu'il y avait des gens qui venaient parce qu'ils avaient un petit bobo, ils avaient mal aux genoux, ils avaient mal aux pieds, ils avaient mal à la tête. Bon, avant de savoir même si c'était grave, ils sont allés se précipiter.
Sabrina, elle applique les méthodes de grand-mère, c'est ça, Sabrina?
Oui, voilà, et puis de bon sens.
C'est le mot qui s'impose.
Écoutez, non, mais je voudrais entendre tous les auditeurs au 01 53 48 3000. Merci, Sabrina, d'avoir appelé.
Je vous en prie, bonne continuation.
Parce que merci également à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux. 01 53 48 3000, je vous sollicite justement parce que je voudrais vous entendre. Est-ce que vous vous empressez d'aller appeler votre médecin ou SOS médecin ou encore les urgences à la moindre petite inquiétude de santé, vous concernant vous, mais également vos enfants? 01 53 48 3000. Lina de Toulouse, bonsoir Lina.
C'est Mina, mais c'est pas grave.
Mina, bonsoir Mina.
Bonsoir Mina.
Bonsoir.
Bienvenue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mina?
Je suis aide-soignante en nuit.
Ah, voilà une bonne chose. Voilà. Alors, on peut être inquiet quand on voit l'état des hôpitaux?
Oui, énormément, oui.
Ouais.
Il y a trop de monde, il y a trop. Après, les filles. Honnêtement, c'est très fatigant. C'est très. Voilà. Après, moi, j'ai travaillé dans les urgences. Il y a des profils de personnes qui viennent, mais vraiment des stressés, pour rien. Ça, c'est vrai.
Ouais.
C'est très vrai.
Ah ben voilà, c'est bien votre témoignage. Racontez-nous un petit peu, alors.
Écoutez, moi, j'ai assisté à deux ou trois personnes qui sont parvenues vraiment pour rien du tout, pour un petit doigt. Douleur au doigt, franchement.
Douleur au doigt, vous nous dites, Mina?
Ah oui, douleur au doigt.
Ça fait rire Jean-Pierre Colombiès.
Ça me fait rire jaune.
C'est pathétique. Hein.
Ouais. C'est pathétique. Ça me fait rire jaune.
Les non, mais profils des gens, on lui a dit, on va leur envoyer, on lui a dit, mettez de la glace et vous attendez.
Et voilà, quoi.
Et voilà, on a
une douleur au doigt.
Il y a pire que ça.
On est obligé quand même de faire la radio pour voir s'il n'y a rien de
Vous vous rendez compte? Attendez, Jean-Pierre veut échanger avec vous.
Mais merci de votre témoignage, parce que ce qu'il faut ajouter, vous avez mis de la glace, mais ce qu'il faut dire, et vous êtes bien placé pour le dire, vous pouvez même le dire mieux que moi, le problème, c'est que lorsque quelqu'un se présente aux urgences, il y a tout un schéma administratif qu'il faut remplir préalablement, il y a toute une lourdeur administrative,
protocole.
Ça prend un temps fou, et pendant les vraies urgences, elles, attendent.
Exactement, passe plus de temps à de la paperasse qu'à faire du soin.
Ouais.
Mais vous les
sensibilisez, vous, quand ils viennent vous voir, les patients?
Ah oui, oui,
vous leur dites que finalement, vous, c'est plus de la perte de temps qu'autre chose quand ils viennent?
Mais ils n'entendent pas, c'est ça le problème, c'est qu'ils n'entendent pas.
Ouais,
c'est ça. Ils n'entendent pas.
Mais parce qu'on leur a dit quelque chose, on a inscrit dans l'idée, dans l'esprit de la plupart des gens, que c'était un droit. Voilà. On leur dit à chaque fois, c'est un droit. Vous pouvez aller à l'hôpital, au commissariat, vous pouvez réclamer partout. Il y avait une enseignante tout à l'heure, on leur dit, voilà, vous pouvez récriminer, vous pouvez exiger. C'est toujours ça qu'on entend. Mais par contre, on n'entend jamais le mot bon sens qui a été employé tout à l'heure et le mot tout simplement obligation et respect des autres.
Merci Mina.
De rien.
Et bon courage à vous. Tiens, je vais juste.
Bonne année,
Mina. Prenez soin de vous. Tiens, je vais juste accueillir Sonia du 95. Quelle ville du 95, Sonia?
Allô?
Oui, Sonia, vous nous appelez de quelle ville?
De l'Isle-Adam.
Eh bien, vous savez quoi? On va marquer une courte pause pub et on se retrouve. Vous restez avec nous, on vous reprend juste après.
Parfait.
À tout de suite. Ne bougez pas, restez avec nous. 0153 48 3000.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h20, 01 53 48 3000. Les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Absolument, avec un invité sur le plateau qui répond à vos questions, Jean-Pierre Colombès, ancien commandant de la police, mais également aussi le porte-parole de l'Association des policiers indépendants. Tiens, nous étions avec Sonia. On vous attend au 01 53 48 3000. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une gaffe. Sonia, je vous reprends donc en direct, Sonia. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, vous écoute, ma chère Sonia.
Alors, c'était pour vous dire que...
On vous entend très mal, Sonia. Il y a un problème de connexion. Vous avez un problème de connexion.
Elle écoute peut-être la radio en même temps.
Non, pas du tout. Non, c'est un problème de connexion. Sonia, on va tâcher de vous récupérer. Je vais accueillir Sarah. Sarah, vous nous appelez de quelle ville, Sarah?
Bonsoir.
Deux.
Vitry. Vitry-Maurice.
Vitry, nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sarah?
Alors, moi, je travaille aux admissions, à l'hôpital également.
Ah ben voilà, c'est très intéressant. Parlons-en, justement.
Pardon?
On vous entend très mal, hein. Je sais pas ce qui se passe, vous êtes passé le mot, là. La connexion n'est pas bonne. Vous avez la même antenne, vous savez, la même antenne pour tout le monde.
Ouais, on partage
tout sur les points. Allez. On vous écoute, Sarah.
Vous m'entendez peut-être mieux?
Ah, oui. Là, on vous entend mieux.
Ah ben, c'est bien. Donc, je travaillais à l'hôpital de Saint-Louis, je travaillais aux admissions.
Oui, on vous écoute, c'est très intéressant, justement, votre témoignage est précieux.
Exactement, du coup, je vous appelle pour témoigner de, justement, à certains passages aux urgences. Mmh. Donc, effectivement, il y a beaucoup de monde dans tous les hôpitaux. Mmh. Et pour information, vous savez, le passage aux urgences, depuis début 2022, il est devenu payant, il est facturé.
Ah bon? Je ne savais pas. Ah oui, si, c'est juste.
D'hospitalisation.
C'est bien de le dire, c'est bien de le rappeler, c'est vrai.
Donc, s'il n'est pas suivi d'hospitalisation, le passage, il est payant. Je trouve que c'est bien, c'est pour limiter un peu le passage aux urgences.
Mmh. Il est payant, il est facturé à combien?
15 euros.
15 euros?
Il est une quinzaine,
c'est ça,
une
quinzaine
d'euros,
ouais.
Pas plus.
C'est bien, voilà. ça va freiner ceux qui viennent pour rien, non? C'est ça?
Exactement, oui, c'est le but.
Ouais, c'est le but.
Et je trouve que, certes, certaines personnes qui n'ont pas les moyens, ça n'aide pas beaucoup de monde, mais pour la plupart, ça peut servir.
Ouais. Parce que vous voyez quoi, vous, régulièrement, qu'est-ce que vous voyez quotidiennement? Des gens qui viennent pour rien, qui normalement n'ont aucune raison valable de venir aux urgences?
Alors, je ne vais pas dire ça parce que je ne suis pas vraiment dans les soins et je ne suis pas aux urgences. Mais de ce que j'ai pu voir, oui, il y a beaucoup de monde qui passe comme ça pour rien. pour un petit truc qu'ils peuvent gérer à distance. Mmh. Après, on va pas juger tout le monde parce qu'effectivement, il y a des gens qui viennent pour des raisons valables. Mmh. Et donc, c'est normal. Mais étant donné que je travaille aux admissions, je vois beaucoup de gens qui se présentent avec des factures. Donc, c'est nous qui les facturons directement. Mmh. Ils se présentent avec des factures, du coup, qui nous demandent le pourquoi du comment, parce que c'est vrai qu'avant, c'était pas comme ça.
Exact.
Donc, on leur explique la procédure.
Bah oui, ils doivent être surpris, ouais. Qu'est-ce que vous leur répondrez ?
Exactement. Voilà, ben, on leur répond au nom de la loi, parce que ça a changé depuis début, 2022. Mmh. Donc, on leur explique la procédure. Et puis...
Et c'est bien de le redire à l'antenne, comme ça. Non, mais c'est bien de le rappeler à l'antenne, comme ça, tous celles et ceux qui vous écoutent ce soir, évidemment... Prennent acte de ce que vous venez de dire.
Voilà. Donc, c'était juste pour dire ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ignore. Mmh. Au moins, tout le monde est au courant.
Mais ça devrait faire l'objet d'une communication.
Jean-Pierre.
Oui, ça devrait faire l'objet d'une communication nationale. Il faudrait vraiment, vraiment mettre les points sur les i, les barres sur les t. Et dire que, voilà, d'abord, un, la bobologie, maintenant, dorénavant, elle est facturée. Et de deux, s'il y a réellement bobologie, ben, ne pas venir aux urgences, tout simplement.
Ah oui, mais après, je pense que d'une manière ou d'une autre, ça a été communiqué
Je sais pas
d'une
si
manière officielle. Hein.
Oui, mais ça n'a pas été vraiment entendu, je crois. On n'arrête pas de nous marteler certains discours anxiogènes. Mais je crois qu'il y a plein de choses qu'il faudrait dire. Hein. Moi, je pense notamment, on nous parle encore du Covid, des affections X et Y. Mais tout concourt à la mauvaise santé, y compris la malbouffe. Or, la malbouffe, je suis désolé, quand on ouvre son poste de télévision, notamment, on voit, il y a un vrai martelage de grands réseaux de distribution. Bon, on va pas les citer, on va pas faire ni de mauvaise pub, mais sur des restaurants rapides, on va dire, qui proposent une alimentation qui est totalement contre-productive à l'équilibre de santé, quoi, tout
simplement. Sarah,
c'était
très intéressant et vous avez eu raison de nous rappeler que venir aux urgences est désormais facturé d'une quinzaine d'euros et qu'effectivement, ça peut freiner certains désormais de venir pour rien. Voilà, effectivement, juste comme disait le rappel tout à l'heure, une aide-soignance pour un bobo au doigt. Bon.
Ben ouais.
Merci, Sarah.
Voilà.
Alors, je voudrais revenir.
Je vous en prie.
À très bientôt. Restez fidèles. 0153 48 3000. Continuez de nous appeler. Justement, il y a un autre sujet qui nous intéresse. C'est celui des commissariats. Ou pareil, on vient au commissariat comme si on allait acheter une baguette.
Oui, c'est un peu ça. Peut-être pas acheter une baguette.
Pardonnez-moi la trivialité de la façon dont je l'amène.
Non, mais j'en étais. Donc, oui, j'ai vécu des choses puisque j'étais.
On s'engueule avec le voisin, je vais au commissariat.
Ouais, exactement. Sans savoir, ce qu'il faut aussi expliquer peut-être aux gens, c'est que ça sert strictement à rien, déjà, premièrement, si ce n'est à laisser une trace. Alors, il ne faut pas tout mélanger. Hein. Il y a parfois nécessité à laisser une trace. Hein. Ça, on l'a déjà dit ici, que parfois une main courante permet de laisser une trace d'un mécontentement ou d'une difficulté qui peut dégénérer. Donc ça, c'est une chose. Mais moi, j'ai vu des dépôts de plainte pour fuite d'eau. On avait beau expliquer
pour
fuite d'eau, parce que le voisin du dessus avait une fuite d'eau. Donc ça, c'est, j'apprends rien à personne. Enfin, je pense pas. Enfin, c'est une procédure entre assurances, quoi, tout simplement. Mais ils insistaient, certains ont insisté pour qu'on leur prenne la plainte. Et il faut savoir qu'en cas de refus de plainte, ces personnes-là peuvent s'en plaindre et dénoncer le commissariat en question auprès du
GPN. À quel moment doit-on se rendre au commissariat, alors? 0153 48 3000, je vous sollicite les auditeurs, si vous voulez évidemment venir poser vos questions. À quel moment doit-on interpeller le commissariat? Tiens, je vous attends au 0153 48 3000. Jean-Pierre Colombo.
Oui, il y a une nécessité. On a eu déjà le cas de figure d'une auditrice dont la maman avait été giflée par une passante. Là, il y a des violences volontaires, c'est clair. Quand on est dans des agressions, dans le cadre d'agressions physiques, je dirais avérées, ou quand on est victime d'une escroquerie, enfin d'un vrai délit, quelque chose qui vraiment lèse la personne, là, il y a motif à déposer plainte.
Violence conjugale, oui.
Mais bien évidemment, les violences conjugales. Il y a tout un panel de motifs qui sont tout à fait légitime à déposer plainte. Maintenant, c'est un peu la bobologie sécuritaire qu'on
je m'engueule avec mon voisin. Voilà. Est-ce que ça mérite d'aller au commissariat?
Exactement. Non, ça mérite pas d'aller au commissariat pour faire simple. On dit oui, mais il m'a insulté. Oui, une insulte, c'est pas un délit.
C'est pas un délit.
Non, si une insulte n'est pas publique, s'il n'y a pas une injure publique sur les réseaux sociaux, par exemple, qui sont le cancer actuellement de la société, il n'y a pas de nécessité à déposer plainte. Et j'ai envie de dire même sur les réseaux sociaux, il faut laisser courir ou bloquer la personne qui insulte. C'est pas plus compliqué que ça. Mais pas mêler le commissariat et donc l'institution judiciaire à des petites choses qui peuvent se régler d'un geste simple. Hein. J'en reviens aux réseaux sociaux parce que vraiment, c'est un sujet qui est prégnant, qui revient sans cesse. Ben, vous avez quelqu'un qui fait un mauvais commentaire, par exemple, ben, bloquez-le, point à la ligne. Tout simplement.
On est en train d'assister, vous parlez des réseaux sociaux, Jean-Pierre Colombier, justement, notamment, où les adolescents s'amusent à se filmer lorsqu'il y a des bagarres ou lorsqu'on s'en prend à un gamin
et à publier.
Est-ce que là, effectivement, on doit se rendre au commissariat ? C'est catastrophique, là.
Dès lors que ça débouche sur une forme de harcèlement qui est gravissime, puisqu'on a des enfants en souffrance après ça, hein, on a des adolescents qui ne supportent pas d'être ridiculisés par leurs petits copains. Là, je pense qu'il faut mettre le haut là, très vite, que l'entourage soit familial, soit scolaire. Parce que
parfois, doivent faire les parents ?
Ah, ils doivent, là, pour le coup, oui, ils peuvent déposer plainte. Il faut absolument stopper ça parce que c'est un mot fort peut-être, mais peu importe, c'est la réalité, c'est un cancer. C'est le cancer de notre société actuelle. C'est la démultiplication de la visibilité de quelque chose qui est très négatif.
Il y a des avantages quand même sur les réseaux sociaux.
Mais je dis pas que tout est mauvais, au contraire, puisque les réseaux sociaux peuvent également permettre une expression libre. Donc ça, au départ, c'était des faits positifs. Mais dès lors que on va vers le mal, vers la méchanceté, hein, il faut employer un mot simple, dès lors que l'action est méchante, nuisible.
Est-ce que c'est pas devenu du voyeurisme, tout simplement?
Bien sûr, on le voit sur TikTok et d'autres réseaux du même acabit, on s'exhibe beaucoup.
Et puis tout le monde s'improvise spécialiste aussi.
Spécialiste aussi, oui, on a...
J'ai remarqué.
On a une démultiplication des spécialistes.
Je vais vous donner des signes, les consignes, les ceci. Il n'y a que ça maintenant, des spécialistes sur les réseaux sociaux.
Le mal vient d'en haut. Souvenez-vous, la crise du Covid, on a eu tous les docteurs diaphoirus de la planète qui se sont succédé sur les plateaux.
Tout le monde
ou même s'il était.
Ostéopathe, kiné. J'ai mal au dos, tenez, je vais vous donner des techniques.
On voyait que certains avaient une vraie jouissance d'être sur un plateau
c'est génial,
télé,
non,
de
c'est
donner
génial.
Son avis. Mais on n'en avait pas besoin de leur avis, ouais. Tout simplement.
Mettez-vous comme ça, vous collez contre le mur, et votre douleur va disparaître.
Il y a un proverbe arabe qui dit la chose suivante. Oui. Si tu n'as rien, si ce que tu as à dire est moins important que le silence, tais-toi.
Ah bah c'est voilà. Moi je trouve que c'est bien.
Voilà, c'est le maître mot. Ouais. Tais-toi et foutez-nous la paix avec ça.
0153483000, venez nous appeler justement sur les répercussions mais aussi les effets des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une crainte évidemment concernant les enfants lorsqu'ils consomment ou ils surconsomment, ou est-ce que vous veillez notamment à ce que vos enfants ne consomment pas davantage donc les réseaux sociaux, à quel moment vous régulez, à quel moment vous intervenez avec son portable. 0153483000, c'est des sujets notamment qui nous intéressent et je voudrais vous entendre, donc je vous sollicite encore une fois sur ce sujet-là. 0153483000. On parlait des je vous ai interrompu tout à l'heure sur les dangers de la drogue, notamment du cannabis, qui sont très nombreux, sur cette consommation donc de hashish qui déclencherait, paraît-il, des processus psychologiques.
Non, c'est pas paraît-il.
Ou psychotique, pardon. Oui. C'est pas paraît-il, oui. Vous avez raison. Psychotique et qui aurait probablement des complications majeures à terme.
Mais ça, des complications majeures d'abord en termes de santé, propre à celui ou celle qui consomme, et puis des problématiques de relations sociales, relations intrafamiliales, parce que souvent ça se manifeste comment les familles voient un enfant qui se replie sur lui-même, qui communique de moins en moins avec ses proches et parfois même avec son réseau amical normal, on va dire, je mets des guillemets autour du mot normal, et qui va de fait faire que le consommateur va plutôt fréquenter des gens qui consomment comme lui, parce qu'ils pourront en parler librement. Mais c'est un vrai problème, parce que quand vous entrez dans cette mécanique de la consommation, vous avez le risque de ne plus en sortir. Alors vous avez des gens qui vont toujours vous dire « Ah mais moi je fume depuis 30 ans, tout va très bien, je gère ». Ok, mais pour un qui gère, ben, il y en a peut-être 5 ou 6 qui ne gèrent pas et qui sombrent dans des formes de dépression chronique et une forme d'enfermement qui est très négatif. Moi, j'ai connu l'époque, dans les années 80, où il y avait encore l'héroïne. Dieu merci, ça s'est passé de mode, sauf que ça commence à revenir, d'ailleurs, l'héroïne, au passage. Mais si tous les consommateurs de cannabis ne passaient pas mécaniquement, automatiquement, à des drogues dures, il faut savoir que la drogue dure a souvent été amenée par la consommation initiale de drogues dites douces. Mais il n'y a pas de drogue douce. C'est aussi catastrophique qu'un acte.
Ben, merci de le rappeler. Je vous interromps parce qu'on on a un auditeur. Madi de Créteil. Bonsoir, Madi. Madi.
Bonne année, bonne santé.
Bonne santé. Bonne année. Mes voeux, mon cher Madi.
Surtout la santé.
Absolument.
Surtout
la santé, c'est primordial, santé, essentiel. On vous écoute. On a 1:30 avant de lancer la pub.
Alors, 1:30. Sur les réseaux sociaux, moi, je dis une chose. J'ai pas mal de fois intervenu. Et j'ai toujours dit ce que je pense et ce que je penserai toujours. C'est que le système ne fait rien pour ça et ça l'arrange. S'il veut couper les réseaux sociaux, il les coupe. Ouais. Donc il ne veut pas. Ouais. Il veut sombrer notre jeune ou nos jeunes dans ce noir, même obscur, je dirais un noir obscur, je ne sais même pas si ça existe, mais dans ce noir-là, dans ce monde fermé sur eux, et il ne fait rien, ça les arrange comme le harcèlement hiver, il peut annuler comme ils ont fait en Chine. Ils ont coupé Google, ils ont coupé pas mal de réseaux occidentaux, hein, spécialement les States. Donc je pense que l'État français peut faire des choses.
Qu'est-ce que vous répondez, Jean-Pierre ?
Oui. Que, voilà.
Et vous répond Jean-Pierre, alors, Jean-Pierre Colombiès.
Meilleur vœu d'abord à l'auditeur, hein, tout simplement. Alors, comparer la Chine, prendre comme point de comparaison la Chine, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple, parce que l'arrière-pensée du gouvernement chinois était de bloquer toute communication vers l'extérieur. Et c'est là où je dis que c'est dangereux aussi, parce que les réseaux sociaux ont été une forme d'expression libre. Ce sont les dérives qui sont extrêmement dangereuses. Dès lors qu'on s'exhibe sur les réseaux, quand je dis on s'exhibe, je ne pense pas nécessairement à se mettre à poil devant son écran. Je pense que quand on exhibe sa vie quotidienne sur les réseaux, là, ça devient un problématique, parce qu'on ouvre son espace privé à l'observation des autres et donc à la critique. Et là, on se met en fragilité. Donc c'est ça qui est dangereux. Alors bloquer tout Google parce que des gens fragiles et faibles se laissent aller à s'exhiber, à montrer toute leur vie intime et donc à pouvoir faire l'objet de harcèlement, il faut faire la part des choses.
Oui, mais c'est une liberté à double tranchant. Parce
complètement.
Que
non, mais
c'est
ça,
bien beau de dire, je suis libre, je me mets à nu et je fais ce que je veux et je m'exprime quand je veux. Non, je suis désolé.
Ah bah sur TikTok on s'exhibe quand même. Ah, hein.
Sur TikTok complètement oui. Complètement. Mais
dire, c'est non, limite même parfois. Hein.
Ah mais oui non mais ça je suis entièrement d'accord. Mais est-ce qu'il faut de fait couper toutes les connexions internet? Je mets non je dis non. Là, ouais. Pour le coup je dis non.
Merci Madi, je dois lancer la pub. Merci Madi pour votre intervention.
Merci,
merci à Jean-Pierre Colombiès. Vous restez avec nous?
Si vous voulez.
Allez très bien. Le face à face justement juste après la pub avec Farid Ed, Jean-Pierre Colombiès, Philippe Nadjibouriaki, mais vous aussi au 0153 48 3000. Vous pouvez continuer de nous appeler. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Heureusement.
Anthony, il ouvre le micro au moment où j'avale mon chocolat. Que vous faire gracieusement par Farid Ed. Farid, merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Bonjour. On lance le face-à-face, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Alors le face-à-face, vous savez, monsieur, on vous dérange pas, messieurs, non, ça va,
non, ça va. Et là, il me demande si...
On est en direct, ça va, tout va bien, on va vous offrir un café, vous allez aller à côté dans la
ils
salle de réunion.
Ils sont pas ouverts, les micros sont pas ouverts,
non. Ils sont ouverts, ouverts. Voilà, voilà. Il y en a qui parlent de Sarko, Hollande, genre normal, quoi. Vous avez vu les auditeurs, franchement?
Ils parlent de sa retraite, en plus ils parlaient de retraite.
Et je parlais de ma retraite, justement, tiens, je parlais de ma retraite.
Alors, vous parlez de la... Vous avez vu les commandants de police?
J'ai un indice sur la défense, donc tout va bien.
Allez, tiens, je vais accueillir d'abord celui qui nous a offert des chocolats pour cette nouvelle année, Farid Ed, qui est toujours élu. Sur la ville. Dites-nous tout.
Conseiller municipal et député suppléant de la circonscription Saint-Denis-Perfit-Ville-Tanneuse. Je tiens à vous souhaiter une bonne et une heureuse année à vous toutes et à vous tous.
Grosse audience à Perfit. Hein.
Comment?
Grosse audience.
Ah, super.
Donc c'est vrai. Vous le savez, ça. On dirait vous découvrez. Vous le savez que BFM est très écouté là-bas.
Élu de la NUPS.
C'était une plaisanterie.
Oui, je sais. Pour ça que je te réponds. Et une bonne année à tout le monde et à tous. Et bonne année aussi à tous les habitants de la circonscription Perfit. Saint-Denis-Ville-Tanneuse.
Je voudrais saluer, vous savez, exactement, je voudrais saluer, vous savez quoi? Un ami qui vous ressemblait, je vous disais ça, hors antenne, qui nous écoute aussi, hein, il est, c'est un fidèle auditeur de Beurre FM, il s'appelle Taj. Taj, on t'embrasse! Voilà, j'ai trouvé ton sosie, il est avec nous, le sosie. Il est de Mantes-la-Jolie, je kiffe. Philippe Nadjibouriaki, conseiller bonjour. Régional, justement.
Co-parole nationale de l'écologie au centre.
Exactement.
La vraie écologie, le premier parti okay, écologiste de France.
Il y a une fausse maintenant. Clochette.
Il y a des
escrologistes. Il y a la vraie,
il y a
la fausse, vous
avez. Il y a des escrologistes, ouais, il y a des écolo-opportunistes.
Il est trop fort, notre Philippe Nadji international.
Il est infiltré.
Il dit oui, il dit non, mais la vraie. Nous, c'est la vraie. Alors le reste, c'est des faux. Hein.
Ouais.
C'est des, vous savez, c'est des copies.
C'est ça.
Il y a bonne ambiance en
ça
tout
va
cas.
Tout se passe bien.
On est seul. On est, aujourd'hui, on n'est plus que le seul parti écologiste, puisque les autres, Europe Schizophrénie Les Verts, c'est devenu un satellite de la France
Attention,
Insoumise.
Vous allez vous faire attaquer. Hein.
Non, c'est mignon, Europe Schizophrénie Les Verts. Ils vont pas mettre pour ça, quand même.
Jean-Pierre Colombiès, qui est avec nous, on le garde. Il est l'ancien commandant de la police, mais également le porte-parole des policiers indépendants.
UPNI, Union des policiers nationaux indépendants.
Exactement.
Donc non syndical et allez. Apolitique.
Apolitique. Ça va?
Ça va très bien, oui.
On vous garde justement avec nous. Nous allons parler de la réforme des retraites, justement. Nous n'irons pas au-delà des 43 années de cotisation. Laurent Berger, les rencontres avec Elisabeth Borne, la Première ministre, entre syndicats, et puis surtout cette réforme des retraites, est-ce qu'on on rebrouche chemin? Est-ce que, évidemment, Elisabeth Borne, la Première ministre, elle a revu un petit peu sa copie? Tiens, Farid Ed, oui. Parce que là, ça chauffe. Hein.
Ben, ça chauffe. On le savait un peu parce que, vous vous rappelez, en 2022, en tout cas à la fin 2022, on devait commencer à discuter sur la réforme des retraites. Et d'un seul coup, Emmanuel Macron s'est réveillé en disant non, on va attendre, et on va commencer à en discuter à partir de janvier 2023. C'est ce qu'on fait, ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais on le voit bien, les problématiques qui vont avoir lieu sur la réforme des retraites. Borne nous dit la réforme des retraites à 65 ans. Maintenant, tout de suite, on voit bien qu'elle commence, et certains commencent à dire à la majorité macroniste que non, ça sera peut-être 64 ans.
C'est ce qu'ils disent.
Ils ont reçu, là, ils reçoivent les syndicats. Alors, ils font attention, parce qu'on sait très bien qu'en France, tous les gouvernements font attention à un syndicat, pas les autres, parce qu'apparemment, ils n'ont pas d'existence. Mmh. C'est à la CFDT. Ah, ils essaient toujours
la CFDT, il paraît qu'elle va se mobiliser.
Voilà, ils essaient toujours de manier la CFDT pour essayer de se mettre toujours avec eux. Mais là, on l'a vu, M. Berger a dit que non, si c'est une retraite à 64 ans ou à 65 ans,
Berger, ouais.
C'est niet, Laurent Berger. C'est niet comme tous les autres syndicats. Et c'est là qu'on va entendre.
Et dit la réforme des retraites rendra le système plus injuste. Juste.
Exactement.
Il a raison?
Ben moi, je pense qu'il a raison, parce que au-delà, et je terminerai là, parce qu'on va en discuter ce soir avec les auditrices et les auditeurs, au-delà de ce qu'on nous dit, il n'y a pas réellement d'urgence. Parce que non. Là, quand on voit la réforme des retraites, il n'y a
ça,
pas d'urgence.
Ça, c'est vous qui le dites, ça, il n'y a pas d'urgence.
Non, il n'y a pas d'urgence.
Moi, même quand je reçois les macronistes, ils disent si, il y a urgence.
Non. Bien sûr, c'est normal.
Je les ai reçus sur ce plateau, eux, ils vous disent le contraire.
Mais c'est normal qu'ils disent ça, parce que pour eux.
Hier, Mélade Chénier nous disait que si, cette réforme, elle doit se faire.
Macron, c'est.
Alors faisons un tour de table, parce que. Attendez. Attendez, je voudrais qu'on prenne le temps d'en parler justement. Jean-Pierre Colombiès, vous m'inondez sur WhatsApp justement sur ces sujets-là. Je voudrais vous entendre là justement en direct.
Oui, bien sûr que j'inonde là-dessus parce qu'effectivement.
Et vous avez raison.
C'est une réforme qui sera évidemment injuste. D'abord parce qu'elle n'est pas urgente. Et puis, alors, entre nous soit dit, il y a un problème de timing. C'est-à-dire que véritablement, la situation n'a jamais été aussi explosive du fait d'une syncrétisation des crises. Or, on n'a jamais vécu une époque où il y a eu un tel décalage entre le corps représentatif et l'opinion publique, la population, le peuple, de manière générale, dans lequel on est tous associés, bien évidemment. Il faut, pour ce type de réforme, qu'elle soit justifiée ou pas, je dirais l'assentiment de toute une population.
Ouais.
Or, il s'est bien gardé de faire un référendum là-dessus, alors que pendant ses vœux, il nous a gargarisé de consultation du peuple. Tout ça, c'est du vent.
Ouais.
Son idée.
Je sais que vous m'avez inondé de messages là pendant les vœux de Macron.
Eh oui, mais c'était. Mais
foutaise, hein, mais c'était selon vous.
Enfin, Adil, c'était grotesque
mais
ce qu'on
a. Oui, mais ça, c'est votre saut de cloche, Jean-Pierre Colombiès. C'est pas. Mais non, encore une fois, non.
Tu parles de la CFDT, mais pas que. J'ai dit attention, pas que, parce que Darmanin s'est fendu aussi d'un message pas plus tard qu'hier en disant que la police non plus n'échapperait pas à la réforme. Et moi, je dis simplement, je ne vois pas pourquoi elle aurait échappé à la réforme. Parce qu'à jusqu'à nouvel ordre, les policiers font partie de la fonction publique dans son ensemble. Et là, bien évidemment, pour une fois, les syndicats se sont réveillés. Ils étaient endormis par le Beauvau de la sécurité. Là, on a l'impression que se sont réveillés en sursaut. Et on va dire, ah ben, si c'est ça, on est en ordre de marche pour bloquer cette réforme. Donc, il n'y aura pas que la CFDT. Et il y aura aussi la rue. Parce que cette réforme.
C'est qui la rue? Les Gilets jaunes?
Mais pas seulement. Toutes les professions qui aujourd'hui.
Vous êtes convaincu? Mais vous écoutez pas l'homme, on dirait que ça va être la révolution, là.
La majorité des Français sont contre cette réforme des retraites.
Ouais. Adil, on a
mais non, quand on voit les sondages, les amis.
Quels sondages récents,
là, justement. Ah, les sondages qu'on connaît, je vais vous les sortir.
Oui, c'est les sondages macronistes.
Si je fais le sondage à Paris 16 ou à Passy ou à Auteuil, j'aurais pas le même son de cloche que si je le fais Porte de la Chapelle, par exemple.
Bon, vous êtes convaincu qu'ils vont investir la rue?
Ah mais moi j'en suis intimement convaincu et là pour le coup ils auront toutes les raisons de le faire.
Ouais. Bah tiens, je vais avoir l'avis de d'abord je vais solliciter les auditeurs au 0153483000, est-ce qu'ils sont d'accord avec vous ou pas? Pardonnez-moi. Ou est-ce que bien au contraire Macron a raison de évidemment de mettre l'accent sur cette réforme des retraites. Philippe Nadjibouriaki, je vous ai vu à plusieurs reprises secouer la tête.
La dodoliner.
Ouais, non, parce que je suis pas sûr que il va y avoir 2 millions de personnes dans la rue sauf si on leur amène une Coupe du monde là, ils y vont tous. C'est ce qui est incroyable. C'est ça qui est beau dans le peuple de France. Et chacun met ses priorités là où il juge utile. Non, mais cette réforme, elle est incompréhensible. Elle peut pas être. Je comprends pas comment il peut y avoir un sondage qui donne favorable. Alors après, ça dépend. Si on les a.
C'est très léger.
Si on l'a fait à la Barclays, ouais, je suppose qu'il n'y a pas de souci. Mais si on va dans une usine ou dans une mine de charbon, je ne suis pas sûr qu'on ait le même résultat. Cette réforme, elle aurait pu avoir un sens si effectivement les caisses étaient déficitaires. Mmh. Et pourquoi pas? Mais on sait très bien que c'est lorsque votre boîte va fermer, qui va embaucher quelqu'un de plus de 55 ans? Personne. Personne.
C'est la réalité.
Vous avez créé de la précarité chez les plus précaires. Donc ça pose un souci. Deuxièmement, si on allonge la durée de cotisation ou le départ à la retraite, mais de manière intelligente, je m'entends. On dit de 60 à 62 ans, vous allez travailler 8 mois par an et puis 4 mois de congé. de 62 à 65, ainsi de suite, dégressif. Comme ça, en plus, ça permettra à beaucoup de gens de pouvoir préparer leur retraite. Parce qu'il y en a qui arrivent à la retraite, ils font une dépression dans les 6 mois, ils sont morts parce qu'ils ont été tout le temps en activité. Ça pourrait s'entendre parce que vous ne pouvez pas produire de façon aussi importante lorsque vous avez 20 ans ou lorsque vous avez 60 ans. D'accord, vous avez la mécanique, vous avez l'expérience, etc. Donc vous pouvez aller plus vite sur certaines choses. Mais à la fin de la journée, vous finissez sur les rotules. Donc on arrête de se dire n'importe quoi. Pourquoi on n'a pas parlé de catégories et de situations? Quand j'entends qu'on va toucher au pseudo-système avantageux, je dis bien un pseudo-système avantageux des policiers, mais regardez-les, ils arrivent à 40 ans, 45 ans, ils sont complètement brisés.
Alors, je vous repose la question un peu différemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, les syndicats, ils vont se mobiliser, hein, si en cas de relèvement à 64 ou 65 ans de l'âge légal de départ, est-ce que cette réforme des retraites, Farid Aide, justement, aujourd'hui, elle doit... Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui ou pas du tout? Et pourquoi Macron y tient absolument?
Moi, je pense.
Emmanuel Macron, le chef de l'État, pardon.
C'est pas une priorité. Il faut savoir qu'il y a déjà eu la réforme des retraites Touraine, qui passe la retraite aujourd'hui à 43,5 annuités. Ça veut dire que déjà, il y a beaucoup de salariés, il faut le savoir, qui vont partir à la retraite à taux plein à 63-64 ans. Déjà,
c'est le cas là.
Là, c'est clair. Là, c'est clair, c'est la situation. Là, ils veulent repousser à 64 ans, 65 ans pour récupérer des charges sociales. C'est ça l'idée, c'est de récupérer de l'argent. C'est ça le fond de la pensée. Premièrement, pour répondre à ta question, Adil aussi, il a fait quoi depuis qu'il est élu président de la République, Emmanuel Macron? Tous les présidents ont fait une grande réforme. Ça a été laquelle?
Alors peut-être que lui, le chef de l'État, Emmanuel Macron, peut-être qu'il veut marquer son histoire.
Voilà, moi, je pense qu'il veut marquer. Pour la fin
de ce quinquennat.
Oui, beaucoup d'ironie, oui.
Voilà, la fin de ce quinquennat, il veut marquer ça. Et je pense qu'il s'y prend mal, comme l'a dit mon collègue Jean-Pierre à côté de moi. La dernière chose aussi, est-ce que c'est la priorité? On nous dit quoi? On va en parler, il y a d'autres sujets. Il y a plein de problèmes dans le pays. On parle de problèmes de la laïcité, on parle de problèmes d'éducation, on parle de problèmes de pouvoir d'achat, on parle que les boulangers, ils vont fermer, les boulangeries de France vont fermer, en tout cas,
des grandes entreprises, etc.
Il y a la guerre en Ukraine, où à un moment donné, l'électricité et le gaz a augmenté, où on sait très bien que, encore ce matin, on a vu que, il va y avoir de 13% d'augmentation de l'eau. 13% d'augmentation.
C'est énorme.
On parle de tout ça, et on nous dit encore qui va payer?
Non, c'est pas possible.
C'est encore nous.
C'est tout simple.
Alors, c'est pas possible.
Non, c'est pas possible. Vous dites c'est la même chose, vous aussi,
oui,
Jean-Pierre Colombiès.
Il y a un croisement des problèmes, il y a un croisement des colères. Faut qu'on sorte, faut que Emmanuel Macron sorte de son caprice.
C'est-à-dire de sorte de son caprice.
On voit bien qu'il fait, pour lui, c'est devenu une obsession, faire quelque chose de grand. Alors, le problème, c'est que quand on ne sait pas faire déjà les petites choses, vaut mieux éviter de faire les grandes parce que c'est le meilleur moyen de se prendre les pieds.
Il a droit à une clochette, lui aussi.
Ouais, même deux, hein. Mais je suis désolé. On dit, là, 50 pouvoirs. Non, il y en a beaucoup plus que ça. Il était secrétaire général déjà de l'Élysée et ministre de l'économie. Et tout à coup, monsieur, on l'a vu pendant les vœux, découvre qu'il y a des problèmes d'énergie. Attends, il n'était pas au courant déjà quand il était secrétaire général? Non, il se fout de nous, il se fout de l'opinion publique. Il veut sa réforme pour marquer l'histoire et faire ce que les autres n'ont pas fait. Sauf qu'il y a un moment pour ça. Et quand il fait, je dirais, un appel à l'unité nationale, alors qu'il a été le premier à la fragmenter, je suis désolé, c'est pas le moment. La situation est explosive. Il aurait tout intérêt s'il veut.
Vous sentez la colère monter? Vous aussi, dans votre quartier, dans vos régions, vous sentez la... Tiens, c'est une question que je vous pose à vous tous. Puisque vous êtes des élus, vous tous, et président d'association. Mais porte-parole d'association.
Les gens, Adil me dit.
Farid Aide, vous élu. Adil. Qu'est-ce que vous dites, les gens? Ça m'intéresse.
Qu'on n'en peut plus.
Oui.
Attendez. Les loyers vont augmenter.
Vous sentez la colère.
Dans le logement social, Adil, le logement social, il va avoir à partir du 1er janvier 2023 3,6 augmentation des loyers.
C'est énorme. C'est beaucoup.
L'accumulation, l'électricité, le gaz, les assurances, etc. Les gens ne n'en peuvent plus, Adil. Les gens ne n'en peuvent plus. Il y a même des gens qui se disent, est-ce qu'on va inscrire encore nos enfants à la cantine? Pourtant, vous savez très bien que dans des collectivités, il y a des prix qui sont différents par rapport aux quotients familiales, etc. Mais quand on conjugue tout ça, on voit qu'à un moment donné, c'est trop. Là, la coupe est pleine. Et les gens, je peux te dire, Adil, quand je discute avec eux, et j'en discute avec énormément dans les quartiers.
Elle est palpable, cette colère.
Ah oui, je pense. Oui.
Allez, vous la captez.
Ah oui. Il ne fait que rajouter, en faisant ça, il ne fera que rajouter une colère et une contrainte supplémentaire à une population qui en subit déjà depuis deux ans et demi, trois ans même. Donc à un moment donné, ça suffit.
Vous, l'élu, conseiller régional, est-ce que vous sentez la colère monter, Philippe Nadjibouyaki?
Je sens beaucoup de déception.
Est-ce que comme Farid El, par exemple, le terrain, justement?
Non, mais je sens de la résignation, je sens pas que de la colère. Je sens des gens qui disent, de façon, au bout du compte, à quoi ça sert de gueuler, de faire ceci, de faire cela. Je suis dit, s'il n'y a pas un million de personnes dans la rue, il n'y a rien qui fera machine arrière. Moi, j'ai reçu ma facture d'électricité. Mmh. Aujourd'hui.
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 Bon.
J'ai reçu le supplément de la facture d'électricité.
Ah, le supplément.
Ouais. Mmh. Donc, le 4 janvier...
Vous êtes comme le boulanger, là, exorbitant.
Ben, c'est pas compliqué. Je suis passé de 1000 euros à 1500 euros.
Non.
1500 euros, je vous jure. J'ai pris
500 euros de plus.
Regardez, moi aussi.
J'ai pris 50% d'augmentation.
Mais non.
Je vous jure.
Ah ouais, alors
moi, le blocage.
Ah ouais, et on le doit quand même en partie au même président qui a fermé Fessenheim et qui n'a pas le
programme
de centrales nucléaires.
Non, il y avait
on marche sur la tête.
Mais je sais pas quel blocage, mais en tout cas, moi, ils ont débloqué le blocage.
Attendez. Non, mais vous dites tous des choses intéressantes. C'est quoi ce blocage, Farid?
Normalement, il doit avoir le blocage.
Normalement, oui.
Des prix au niveau de l'électricité et du gaz.
Mais sauf que c'est pas possible puisque beaucoup ont passé des contrats avec des sociétés qui. Privé.
Donc, non, mais il a raison, Farid El. Normalement, il y a un blocage. Normalement, il a raison, c'est vrai. Comment se fait-il que Philippe Nadjibouyaki se retrouve avec une facture supplémentaire de 1600 euros en plus? Vous avez dû être choqué, non? Surpris.
Mais de fou. Parce que moi, j'étais surpris qu'au mois de décembre, je sois pas débité ou qu'on m'a. Chaque année, on me remboursait un petit peu, etc. Et on n'a pas augmenté notre consommation.
Ouais.
Parce qu'en plus, moi, je me chauffe au gaz avec mon chauffage. Et moi, je vais leur demander des comptes. C'est pas possible. Enfin, c'est juste pas possible.
Il faut imaginer ça. Démultiplier dans les grosses entreprises et les artisans. Quand on entend le témoignage, pas plus tard qu'il
y a. Tiens, la facture d'électricité, une facture exorbitante d'un boulanger.
Un restaurateur aussi qui
Julien Méducel, artisan boulanger. Enfin. Je ne sais pas si on retrouve. Anthony peut nous retrouver son extrait, justement. Il vient de Rieux, dans l'Oise. Il vient de recevoir une facture d'électricité de plus de 12 000 euros.
Oui, il y a un restaurateur qui a reçu 17 000 euros.
Et un restaurateur qui est chez nos confrères, il devait être là ce soir justement, chez TPMP, chez notre ami Cyril Hanouna, il s'est retrouvé avec une facture de
17 000 euros. Voilà, il va fermer, tout simplement.
Ouais. Il est obligé, il est contraint de fermer.
Non, mais lui, c'est normal parce qu'il n'y a pas eu de blocage.
Farid El.
Lui, c'est normal parce qu'il n'y a pas eu de blocage des prix au niveau des entreprises TPE et des moyennes et des grandes entreprises. C'est normal qu'il va voir. Mais la question qui est posée, c'est comment c'est possible que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a des centrales nucléaires, il y a plus de 35 réacteurs nucléaires qui sont en panne, qu'on en a là.
Après, il y a des histoires de maintenance.
On peut réparer quelques-unes, etc.
Mais ça se remet pas en marche comme ça.
Voilà, exactement, parce qu'il faut des ingénieurs, il faut du
monde, soudeurs, etc. Tout simplement.
Voilà.
Des soudeurs.
Et ça veut dire qu'à un moment donné, on est en. Alors, on nous parle, et il faudrait qu'on revienne aussi dessus, parce qu'on nous parle tout le temps, maintenant. Et c'est pour ça que moi, ça m'énerve un peu, parce que tout ce qui se passe dans le pays maintenant, c'est la faute à l'Ukraine.
Oui,
la faute à l'Ukraine.
Ouais.
C'est qu'il y a quelque chose, c'est la faute à l'Ukraine. Il y a ça, c'est la faute à l'Ukraine.
Sauf qu'en Espagne,
il faut qu'on arrête quoi, et de nous prendre pour des tartonfions. Il n'y a pas que la guerre en Ukraine. Bien sûr que la guerre en Ukraine.
Je pense que la guerre en Ukraine a contribué, non? Peut-être.
A contribué, bien sûr.
Mais pas dans ses proportions. Non, pas dans ses proportions.
Ben justement, vous savez quoi? On a retrouvé l'extrait de Julien Péducel, qui est artisan boulanger, qui est pris à la gorge. Il a mené depuis hier, une opération coup de poing pour tirer, vous savez quoi, la sonnette d'alarme. Écoutez.
Racontez-nous pourquoi la situation est devenue insupportable pour vous.
Elle est devenue insupportable parce que les factures d'électricité sont tellement élevées que je ne peux pas les payer. Parce que si je les paye, je ne peux pas payer mes salariés, mes fournisseurs et puis le reste de mes charges.
Alors concrètement, pouvez-vous nous dire d'ailleurs quelle est la facture du mois de décembre par exemple?
La facture du mois de décembre, monsieur, est montée jusqu'à 12 880 euros et des poussières. Le mois dernier, c'était 6 000. J'ai payé le mois dernier et ça fait un trou dans ma trésorerie.
Un trou dans la trésorerie, justement, vous voyez. Ça, c'est un extrait donc récupéré chez nos confrères de BFM TV, chez Bruce Toussaint. Alors, bon, le cri d'alarme, il est clair. Hein. Et puis, il y a aussi le restaurateur avec ses 19 000 euros aussi de frais. En gros, certains vont fermer.
Oui,
disons-le clairement.
Oui, et donc ça signifie quoi ? Bah, du chômage en plus, une précarité qui va s'accumuler. Et si on leur rajoute en plus une réforme des retraites là-dessus, mais c'est explosif.
Ah bah, je vous pose la question, alors explosif, j'y arrive.
C'est explosif.
Parce que moi, quand j'entends Philippe Nadjiboye qui nous parlait de lui, encore vous, vous pouvez payer ou pas ?
Bien sûr, évidemment.
Oui.
Oui.
Mais pour ceux qui ne peuvent pas payer, comment ils font ? Ils sont pris à la gorge.
Coupure. Parce que non, ça
non mais ils sont pris à la gorge. Ils ont coupure. Coupure.
Fou, c'est que.
C'est ça. Tiens, je vous sollicite, les amis auditeurs. C'est ceux qui sont pris à la gorge, justement, par des factures d'électricité comme Philippe Nadjiboye. 01-53-48-3000, je vous attends.
01-53-48-3000. Les informés vous donnent la parole.
J'ai un prélèvement de 112,50 €. C'est-à-dire que je m'en trouve à 600
euros. Mais la question, c'est quand on est pris à la gorge.
Oui, mais quand on
est coupé.
Là, on parle des boulangers.
Donc on va faire
mais il y a une grande entreprise alimentaire qui est en train de fermer. Ce sont des centaines d'emplois qui vont tout simplement se retrouver dans la rue. Alors que l'entreprise fonctionne bien. On ne parle pas d'entreprise qui avait déjà un trou, un déficit ou qui était en précarité, en difficulté de fonctionnement. Non, on parle d'entreprise qui fonctionne, mais qu'on va prendre en otage avec des factures EDF absolument insupportables. Et il y aura un sentiment d'injustice absolue, totale.
Non, mais ce qui est le plus fou, c'est qu'il y a le plus fou, c'est qu'on a indexé le prix d'électricité au prix du gaz.
Oui, non, mais ça, c'est une folie.
Qui est le fou qui a
fait
ça?
Alors que tous les pays.
L'Espagne et l'Italie
ne le font pas. Voilà.
Et
qu'ils ont une tarification parfaitement normale.
Donc, Faridel?
Non, mais c'est.
Non, mais ça, ma question est simple. Est-ce que c'est pas aussi le retour, on le dit de plus en plus, vous savez quoi? Tout simplement, cette crise, ce cri d'alarme des restaurateurs, des boulangers artisans, le retour potentiellement des gilets jaunes
mais pas que.
Et je vous pose la question.
Samedi, là,
alors
oui.
Tiens, je distribue la parole. Farid Aïd et ensuite Jean-Pierre Colombier, c'est Philippe Nadjiboye.
Ouais, pas que parce que c'est vrai que là vous vous rappelez ça a commencé les gilets jaunes par augmentation de l'essence, voilà les situations où les personnes qui allaient à leur travail qui faisaient des 50, 100, 150 km, 200 km par jour aller-retour etc. avec le prix qui flambait. Là vous avez vu que c'est descendu, là ça a augmenté à partir du 1er janvier, ça a augmenté parce qu'il n'y a plus la ristourne des 10 centimes et ni les 10 centimes de l'État et les 10 centimes de Total. Ça fait que là, on se retrouve là à des pompes à essence, je ne sais pas si vous avez vu, à 2 euros.
2 euros, c'est énorme. J'ai vu.
De litre, voilà.
Il n'y a plus effectivement l'aide.
Bon, il n'y a plus l'aide, ça va commencer.
Ouais, mais
et justement,
non, mais c'est cher maintenant l'essence. Voilà, il est monté à 2 euros.
Ça veut dire que les gilets jaunes, il y avait ça. Mais là, la conjonction de beaucoup de choses vont faire en sorte que ça va monter. Alors c'est vrai, je partage ce que tu dis.
Philippe,
c'est vrai qu'il y a aussi, Philippe, il y a aussi une part de la population qui est résignée. Ça, je suis d'accord avec toi, parce qu'on l'entend, etc. Néanmoins,
c'est terrible, ça, que vous dites,
dès qu'il va avoir une petite étincelle, dès que l'étincelle va prendre, moi je pense que là, ça va être compliqué.
Il y a un mot,
l'étincelle, c'est là, c'est l'artisan boulanger. Et le restaurateur,
il y a un mot qui n'est plus entendable, de mon point de vue.
C'est lequel ?
C'est le mot aide. Quand j'entends le président dire on va aider, mais on s'en fout qu'il aide. C'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est que effectivement les traités soient revus au niveau européen. Qu'est-ce qu'on étale ? Pourquoi on s'est embrigadé dans des traités comme ça, enfin complètement aberrant. La libéralisation des tarifs est une catastrophe. Ça n'a pas marché, ça ne fonctionne pas, et on va droit dans le mur. Et là, pour le coup, il n'aura peut-être pas les policiers.
Je vous sens alarmiste ce soir. Hein. Vous rejoignez cet artisan boulanger, ce restaurateur. Hein.
Vous savez comment 1789 a commencé ? Avec le prix du pain. Tout simplement. Dès que vous touchez à
l'alimentaire. Mais ce n'est pas les mêmes contextes, ni la même conjoncture.
Ah bah ça risque d'être pire.
Ça risque d'être pire.
Oui, ça risque d'être pire.
Mais c'est l'ancien contre la police qui dit ça, j'aime bien.
Adil, pas très rassurant. Si on est aussi négatif. Parce que c'est l'addition de beaucoup de choses.
C'est ça.
On a augmenté. Par exemple, il aurait pu faire la réforme des retraites. Mais dans le pays, ça allait bien, il n'y avait pas le problème d'électricité et de gaz.
Il y aurait eu un consensus.
Il y aurait pu avoir un consensus avec peut-être un syndicat qui se dit réformiste. Il y aurait pu avoir des choses. Mais là, la conjonction de tout ce qui s'est passé après le Covid, ça a fait du mal aussi, le Covid.
Ah, mais moi, quand j'entends Philippe Nadjiboye qui nous dire que sa facture, le supplément est de 1500 euros, donc 500 euros de plus, je n'ose même pas imaginer ceux qui sont... dans le désarroi, c'est-à-dire je parle pas des familles modestes, hein, je parle des familles qui survivent.
Les boulangers font pas partie du CAC 40. On parle de petits artisans, justement.
C'est des petits artisans qui
Ils ont des chambres froides qui consomment énormément d'électricité. Donc ça va être un vrai problème.
Vous partagez les avis, Philippe Nadjiboye, de Jean-Pierre et de Farid
sur le que ça pourrait dégénérer, etc. Avec ce qu'ils ont pris dans la face pendant 3 ans, les gilets jaunes, moi je les ai couverts de l'intérieur, puisque je faisais des lives, j'étais un des premiers avec Rémi Buzyne, avec Clément Lanneau et Amar Touassi, à être à l'intérieur des gilets jaunes, entre les gilets jaunes et les CRS. Franchement, ils ont pris super cher.
Bien sûr.
Je suis pas sûr qu'on ait envie de reprendre ce qu'ils ont pris.
Si on est résigné par rapport à ça, ça me permet de rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, ça veut dire qu'on se résigne à ce que la France tombe dans une forme de dictature. Clairement. Parce qu'on voit déjà ce qui se passe au Parlement. Tout passe par le 49-3. Ouais. On a squeezé complètement.
Mais c'est pas une dictature quand on passe par le 49-3.
Ah bon?
C'est inscrit. C'est gravé dans la Constitution.
49-3.
Et bien d'autres l'ont utilisé avant.
Peut-être.
Mais à vous entendre parler, on dirait que c'est dictatorial.
Adil, on peut pas s'habituer à ça.
Mais pardonnez-moi, messieurs, avant, beaucoup l'ont utilisé.
On est à un an de l'élection présidentielle et législative.
Ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas de majorité absolue.
Et alors, faire. Ça veut dire qu'on va être à combien de 49-3 à la fin du quinquennat de
Macron? On va gouverner tout le temps comme ça.
Rancard, c'est ce qu'il a fait.
Tout le temps comme ça.
Non, mais pas à ce point-là.
Rancard, c'est le rancardman du 49-3.
34, oui, mais 34 fois. Mais là, on est déjà à 10. On est déjà à 10.
Dans il nous reste encore 24.
Oui, mais il aura son
nom de Michel Rocard.
Ça va vite. Ouais. Non, mais il y a un truc qu'on perd de vue quand même. Hein.
C'est-à-dire.
Oui, Rocard l'a fait peut-être.
Oui. Mais et bien avant Rocard, ils l'ont fait aussi d'autres.
Adil, on est dans un contexte où il n'y a pas de hasard. Le Rassemblement National a 90 députés. Ça, c'est le thermomètre, c'est l'indicateur que quelque chose ne va pas dans cet état qui est le nôtre. Il n'y a plus d'opposition politique crédible. On a Olivier Faure, je crois qu'il y a des élections bientôt pour renouveler le. Je crois, je ne vais pas dire de bêtises.
C'est ça. Congrès.
L'opposition politique dans ce pays a disparu. Parce que moi, les LR ne sont pas une opposition, puisque eux aussi avaient dans leur programme la retraite à 65 ans.
Oui.
Et Édouard Philippe a déclaré que 67 ans, ça ne le dérangerait pas. Ben voyons.
Mais Ciotti a dit que 64 ans.
Ouais, pourquoi pas 70 ans? Moi, je propose 70 ans. Moi, je propose la retraite à 70 ans. Moi, les choses sont claires. On travaille jusqu'à.
Pas de retraite du tout, c'est mieux.
Pas de retraite, c'est mieux. C'est pas plus mal.
Non, mais en même temps, je ne partage pas tout ce que tu as dit.
Faridette, pourquoi?
Il y a quand même dans ce pays, il faut le dire, même si c'est compliqué, une opposition.
Et c'est l'élu qui parle.
Et
c'est la NUPES qui parle.
Justement, on va en parler. Tiens, voilà.
Eh ben, parlons-en. Pourquoi vous ne débattez pas avec lui? Allons-y.
Je vais m'énerver.
Non, mais il y a une opposition quand même. Parce qu'à l'Assemblée nationale, ce qui était bien, en tout cas, dans ce quinquennat, c'est que là, enfin, comme ils n'ont pas la majorité absolue, on peut débattre, on peut discuter. Et là, normalement, la majorité doit trouver. Non, mais normalement, la majorité doit trouver un consensus, des compromis avec les différents groupes. C'est ça l'intérêt. Mais là, eux, ils ne veulent pas. Même s'ils disent, je me rappelle du discours d'Elisabeth Borne en disant oui, on veut discuter avec les oppositions, on veut essayer de trouver un consensus, on veut essayer de contre-remis, etc. Mais c'est pas
les gens. Il vous répond, Jean-Pierre. Attendez, Jean-Pierre Colombier.
Mais c'est bidon. Le consensus ou le dialogue, quand Emmanuel Macron dit je veux que la population participe encore plus au débat national, mais c'est de la foutaise.
Ouais.
Que reste-t-il du débat des gilets jaunes dont
Faridette vous dit qu'elle existe cette opposition
non,
et qu'elle débat.
Pas.
Elle n'existe pas.
Elle n'existe pas. Parce que par rapport
vous n'existez pas, chers amis.
Non, mais je vais argumenter. Par rapport à ce qui s'est passé aux gilets jaunes, et j'ai reproché ici même, j'ai dit mais ce qui est scandaleux, c'est que justement on est à une telle explosion populaire qu'aucun parti politique, je dis bien aucun parti politique, n'a eu le courage ni le cran d'associer
y compris Mélenchon
à la colère. Bien sûr, lui comme les autres. Et là, en ce moment, moi, j'attends de voir justement ce qui va se passer. J'entends encore la même litanie qu'on a déjà entendue. Ah, moi, je suis légaliste. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis légaliste? C'est-à-dire qu'on accepte tout. Quand Hitler a été élu en 33, c'était légaliste. Il a été élu démocratiquement. Eh ben, ça, je suis désolé. C'est plus entendable. Et j'espère, puisqu'on a un représentant de la NUPES ici présent, qui vont se réveiller, qu'Olivier Faure va sortir de sa léthargie, parce que son clip là avec le Monopoly, c'est à mourir de rire, et qui j'espère que la gauche va exister vraiment.
Tu l'as vu ou pas le clip?
Oui, je l'ai vu, Philippe. Est-ce qu'elle existe cette opposition?
Est-ce que
vous partagez l'avis?
Elle est parsemée, parce que normalement, l'opposition aujourd'hui, ça devrait être.
Moi j'en vois deux, hein.
Marine Le Pen.
La NUPES et le Front National. Et le Rassemblement National.
Et la NUPES. Faut voir que la NUPES est fragmentée en vérité.
Bien sûr.
Ils sont divisés sur plein de points. Celui qui tire les marrons du feu et son épingle du jeu, c'est Jean-Luc Mélenchon parce qu'il les a écrasés, il les a vampirisés, il les a fait disparaître. Hein, le PS, Olivier Faure, tu me parles d'Olivier Faure, parle-moi d'un poulpe, ça a plus de réactions quand même.
Ça, c'est clair.
C'est vrai. Sincèrement, en plus, avec leur clip où tu vois les
mecs
à Louis Vuitton.
Ridicule.
Il n'y avait personne issu de la diversité, personne de la Pampa. Non, mais franchement, la gauche caviar, elle a été ressuscitée par Olivier Faure. Du balai, tout ça, une bonne fois pour toutes. Les écolos, ils sont inexistants. Et les seuls qui existent aujourd'hui, de façon crédible aux yeux des gens, je ne partage absolument pas leur vision, mais c'est le Rassemblement National.
Bien sûr.
C'est un truc de fou.
Oui.
Vraiment. Ils sont structurés, ils sont organisés.
Mais il n'y aurait déjà pas le Rassemblement National s'il y avait eu une opposition digne de ce nom. J'en reviens à 2018, au niveau des Gilets jaunes.
Souvenez-vous, ces débats qui ont eu lieu au sein de l'hémicycle, où justement, la NUPES. Non, mais attendez, sur la réforme des retraites, où là, on peut le dire, on présentait évidemment que la NUPES était aussi se ranger aux arguments du Rassemblement National.
Oui, non, bien sûr, mais ça, c'est le jeu. On sait très bien que ça, c'est le jeu médiatique. Ou à un moment donné, quand on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses, bien sûr, certains ont la
fâcheuse. Ça a été taclé par le chef de l'État, voilà. Justement. Reproché par le chef de l'État.
C'est sa majorité qui a fait dire des discussions du Rassemblement National.
On aurait pu avoir plus de députés en France si elle aurait fait le barrage au Front National. C'est ce qu'elle n'a pas fait dans beaucoup de circonscriptions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous pensez que c'est facile avec un président de la République où on sait très bien que c'est une monarchie présidentielle, où c'est le président qui décide de tout, qui fait tout, etc., que les autres partis existent, et ce n'est pas facile. On le voit bien, même à l'Assemblée nationale.
Mais qui a dit que c'était facile?
Je te dis que ce n'est pas facile. Néanmoins, moi, je pense que, en tout cas, moi, j'y suis de temps en temps à l'Assemblée nationale et je suis en même temps dans la rue et je discute avec les gens. Les gens pensent qu'il y a une alternative qui est possible. Bien évidemment que certains poussent que ça soit le Rassemblement national. Bien évidemment. Ben, parce que pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle a fait, Marine Le Pen? Elle a fait du Macron. Ouais. C'est elle la chef,
Jean-Pierre.
Et tout le monde se tait.
Mais tout le monde se tait. Jean-Pierre Colombier.
Moi, je suis navré. Je me suis beaucoup intéressé quand même à l'histoire, à tous ces mouvements dits révolutionnaires, qui l'étaient aussi d'une manière intrinsèque. Je veux dire, mais si on attend à chaque fois que ça vienne du pouvoir légal, il se passera rien. Si on part de ce principe-là, il y aura encore des gamins de 7 ans qui pousseraient des wagonnets de charbon dans les mines. À chaque fois, il y a eu des luttes violentes. À chaque fois, ça a cassé, bien sûr. Mais il faut casser à bon escient. Il ne faut pas envoyer des black blocs.
Allez, messieurs.
Il faut que ce soit une opposition digne de ce nom, dans la rue, effectivement.
Dans la rue.
Mais de manière crédible et pas simplement attendre des casseurs habituels.
Je suis d'accord.
On avance, il est 19h10 précisément, 8-8-8-8, pardon, parce qu'il faut être précis quand on fait de la radio. Omar Sy, vous avez suivi les coulisses d'une interview qui a provoqué une énorme polémique. Vous savez quoi? Eh bien, l'acteur, la star, justement, et coproducteur du film Tirailleurs. Tirailleurs qui sort en salle demain, a fait beaucoup réagir le milieu politique, notamment en raison des propos sur l'Ukraine. Alors, vous savez, cet échange donc avec Omar Sy sur les guerres, notamment, parce qu'il traite de 14-18 avec les Tirailleurs, et ça sort demain, moi je vous invite à aller le voir, et après vous faites votre propre opinion. Sauf que là, eh bien ça ne passe pas du tout les déclarations concernant donc Omar Sy. Et puis, les attaques par les politiques ont fusé dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il a dit, Omar Sy? Il a simplement fait une comparaison avec la guerre d'Ukraine, la guerre en Afrique, et puis lui ne comprend pas très bien pourquoi on en fait, quand on parle des guerres en Afrique, on en fait...
Moi,
absolument.
Je suis d'accord.
Tiens, Faridette, vous êtes d'accord?
Moi, je
sens que ça va continuer à faire polémique.
Ah non, mais moi, je suis d'accord, d'abord, avec... D'abord, je trouve que c'est un film qui... Je dis à tout le monde d'aller le voir, parce que ça, c'est un beau film. Premièrement. Deuxièmement, moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit Omar. Et je trouve que c'est bien aussi que Omar Sy, un acteur, parce que on a tendance, vous rappelez quelques années antérieures, les acteurs se mouillaient un peu. Depuis Sarkozy, vous rappelez.
Lui, il dit quoi? Il dit quand c'est en Afrique, oui, quand ça se passe en Afrique, vous êtes moins atteint.
Je vais venir, Adil.
Est-ce que c'est une réalité?
Je vais venir, Adil.
Allez-y.
Les acteurs se mobilisaient un peu. Depuis Sarkozy, les acteurs sont mis un peu derrière en se disant non, on dit rien, voilà, etc. Il faut savoir que Omar Sy, c'est l'homme le plus préféré des Français.
Oui, c'est Jean-Jacques Goldman,
le premier, je crois, après le deuxième.
Le premier. Il y en a, toute une liste.
Et après les troisièmes. Et ce qui veut dire.
Il y a Soprano,
Omar,
il y a
Omar Sy, qu'est-ce qu'il veut dire? Moi aussi, je le comprends. C'est que ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe dans certains pays en Afrique, eh ben, on est touché. Voilà. Mais ce qui se passe là en Ukraine, on est touché à un point. Je vois, moi, je regarde. J'ai cette chance de regarder souvent BFM, CNews, tout ça et tout, etc. Ils en parlent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils en parlent. Ils en parlent matin, midi, soir de l'Ukraine. Moi, je pense que la France est plus proche du Mali, de l'Algérie, du Maroc, etc., que de l'Ukraine.
Alors,
je parle de lien. Et je suis d'accord avec lui en disant qu'à un moment donné, il faut que. Dernière chose, Adil, excuse-moi. Oui, moi, je suis content qu'il y a beaucoup de gens qui boycottent. Parce que les gens qui boycottent, c'est qui? C'est les femmes et les hommes du Front National. C'est le Front National. C'est que ça. Si on fait un sondage dans l'immensité, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec les propos d'Omar Sy.
Eh bien, justement, je sollicite les auditeurs au 01 53 48 3000. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos d'Omar Sy ? Voici sa déclaration. « L'Ukraine n'a pas été une révélation dingue pour moi, comme j'ai de la famille ailleurs. En Afrique, justement, je sais qu'il y a eu toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées, des parents qui perdent leurs gamins, des gosses qui deviennent orphelins. Ça n'a jamais cessé depuis la Seconde Guerre mondiale. Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints. » Jean-Pierre Colombès.
Il a raison. Il a totalement raison. Il y a des guerres, il y en a toujours eu, il y en aura encore, et il y en a actuellement. Je veux dire, sans parler de l'Afrique, la guerre au Yémen. Qui est capable de faire le point sur le conflit au Yémen, par exemple ? Personne. En Afrique, il y a eu bien évidemment des conflits même internes. Je pense à des conflits interethniques sous certaines dictatures. Je pense avec Idi Amin Dada, pour le plus caricatural d'entre eux, mais pas que. Bokassa était aussi un massacreur en chef, et ça s'est fait relativement, non seulement dans l'indifférence générale, mais parfois avec la bénédiction de certains États occidentaux. Donc c'est vrai que c'est loin des yeux, loin du cœur, et puis surtout, à partir du moment où ça touche pas nos intérêts vitaux, bon, on a tendance à regarder ailleurs, faut être clair, bien sûr.
Ouais, non, il a raison.
Après, sur le film, bien évidemment, c'est une page de l'histoire qui est importante, qu'il faut rappeler, qui n'est pas assez rappelée. C'est vrai, la participation des régiments coloniaux sénégalais, mais pas seulement. Hein, il n'y a pas eu seulement des Sénégalais. Tout l'empire colonial français.
Alors pourquoi anglais. Ça fait une polémique alors ?
Non, mais c'est pas le film.
Pourquoi
qui
ça
fait
crée
polémique.
Une polémique ? Non, c'est les propos de Omar Sy qui font polémique.
Mais parce que. C'est une frange. On l'a vu. Les personnes qui sont intervenues, ce sont qui ? Des députés de Rassemblement National, c'est ce que j'ai vu. Si j'ai vu comme Madame Loiseau, eurodéputée, oui. qui a dit un certain nombre de choses, mais après elle s'est rétractée en disant oui, non, mais je
pense qu'il y a confusion. Non, mais je pense qu'il y a confusion. Toujours pareil, c'est très compliqué la prise de parole.
En tout cas, on a bien noté que cette déclaration ne passe pas. Voilà,
c'est ouais, je trouve que c'est une erreur, mais parce qu'il y a beaucoup d'assimilation entre le film, le sujet du film, et puis sa prise de parole et sa personnalité, parce que lui est installé aux États-Unis aussi.
On continue d'en parler justement juste après la pub. On lance la pub et on se retrouve tout de suite après au 01 53 48 3000. Est-ce que les propos, vous les considérez comme polémiques ? 01 53 48 3000 et je donne la parole à Philippe Nedjiboye qui est à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Dernière ligne droite, il est 19h16, précisément, Les Informés avec Jean-Pierre Colombès, Les Informés avec Farid Aïd, et enfin Les Informés avec Philippe Nadji-Bourriéki. Je continue de parler de cette déclaration qui ne passe pas concernant Omar Sy. Omar Sy, rappelons-le, qui est la troisième personnalité préférée des Français, c'est bien de le souligner, et aujourd'hui, avec cette justement ses propos concernant son film, Les Tirailleurs. Je vous invite à le voir, il sort en salle demain. Philippe Nedjiboye.
Bon, c'est.
Pourquoi doit-on polémiquer surtout maintenant ?
Parce que c'est l'air du temps, parce que dès que le Rassemblement National.
Est-ce que c'est vraiment une polémique, les propos de.
Non, c'est pas une polémique. C'est pas entièrement vrai, parce que quand il y a eu certains conflits, on a été sensibilisés. Là, ce qui se passe, c'est que beaucoup de Français s'identifient aux Ukrainiens. Et faut le dire parce qu'ils se ressemblent, parce qu'ils sont sur le même continent, et donc ça crée une certaine proximité. Et puis non.
Alors est-ce qu'il voulait pas dire tout simplement c'est... Non, mais de façon.
Ils sont orthodoxes. C'est pas vraiment le même cycle. Mais
c'est chrétien,
ce que je veux dire.
Vous disiez quoi là? C'est intéressant.
L'Ukraine, c'est aussi un pays qui est chrétien, même s'ils sont orthodoxes. Je suis d'accord avec toi, Phil, orthoxe, mais ce sont des chrétiens.
Et mais des chrétiens en Afrique.
Non, mais
on se dit oui, mais beaucoup.
Non, mais c'est pas une vérité.
Certains, dont certains sont massacrés aussi. Oui, voilà,
exactement.
Tout à fait.
Rappelle-toi le Kosovo. Rappelle-toi la Bosnie-Herzégovine. On a été sensible et on a envoyé des troupes, des casques bleus, etc. pour le Kosovo, alors qu'ils sont pas chrétiens. La Bosnie-Herzégovine, ils sont musulmans, ils sont pas chrétiens. Il y en a un petit peu, il y a des poches.
Alors pourquoi quand c'est l'Afrique, effectivement, on est moins atteint?
Parce que
c'est l'Afrique?
Non, mais parce que.
Je pose la question.
Non, mais quand il y a des trucs au Moyen-Orient, on se sent très peu concerné. Et pourtant le Moyen-Orient c'est pas l'Afrique. S'il y a des trucs au fin fond de l'Asie, on se sentira beaucoup moins concerné. Mais là,
Jean-Pierre Colombès parlait du Yémen tout à l'heure.
Et puis il y a une certaine culture France-Afrique qui fait que nos élites ne veulent pas se sentir concernées parce qu'il y a une responsabilité sur la gestion après la colonisation et l'implication aussi. D'ailleurs, on le voit avec Wagner qui est en train de partout où il est de faire dégager. La France, la France et les États-Unis en Centrafrique, etc.
Et les Chinois.
Donc ça touche moins, entre guillemets, et puis surtout, C'est non, mais c'est un problème de médias. Si les médias commencent à en parler du matin au soir, les gens vont se sentir concernés. Bien si sûr. Les médias n'en parlent pas.
Exactement.
Et là, tu vas sur certaines chaînes. Et moi, je l'ai dit, je suis pro-ukrainien, je suis pas anti-russe, mais je suis pro-ukrainien dans le sens où je considère que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine et pas l'inverse. Et donc, je suis régulièrement en manifestation avec l'Union des Ukrainiens de France. Et donc, je souhaite la fin du conflit, mais surtout la libération de l'Ukraine.
Un mot peut-être, justement, sur l'Ukraine.
Moi, ce que je regrette toujours, j'ai dit ici plusieurs fois, c'est que malheureusement, les processus d'entente, les fameux traités de Minsk 1, les Minsk 2, sont restés en rade, qu'il y avait déjà des négociations, qu'il y avait déjà des déclarations préalables, qui voulaient, qui exigeaient, et tout le monde était plus ou moins d'accord sur le thème de la neutralité de l'Ukraine, parce qu'historiquement, il y a quand même quelque chose de qui les rassemble à l'Ukraine et à la Russie, et qu'il fallait, malheureusement, le conflit a éclaté, mais il aurait fallu tout faire en amont pour que ça n'éclate jamais, en oubliant que depuis 2014, les pro-russophones, les pro-russes d'Ukraine s'était révolté, qu'il y avait déjà une guerre préexistante. On n'a pas tenu compte de ça. On parle de conflit. Omar Sy se trompe un petit peu, parce que le conflit qui existait déjà, qui s'en préoccupait? Qui se préoccupait déjà préalablement de l'invasion, c'est un bien grand mot, mais de la répression de l'armée ukrainienne contre ces pro-russes? Personne, tout le monde s'en désintéressait, mais prodigieusement. Or, il aurait fallu arriver à mettre tout le monde, à obliger tout le monde à être autour de la table des négociations et à respecter chacun les accords pris par les parties. Ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, se sentir obligé de prendre parti, moi, ça me gêne. Ça me gêne beaucoup, parce que réellement, je ne me sens pas concerné. Et je pense que la France, en particulier, ne l'est pas. Elle doit rester l'ami et de l'Ukraine et de la Russie, et continuer à parler avec la Russie.
C'est ce que fait le chef de l'État.
Avec lesquels le Macron...
Mais il continue de parler,
il parle, c'est tout.
Non, Macron dit des âneries absolues. La seule fois où on était en guerre contre les Russes, c'est nous qui avons déclaré la guerre aux Russes. Napoléon en 1814, la guerre de Crimée déjà en 1866. Enfin, arrêtons. Et le général de Gaulle avait très bien compris qu'il avait déjà établi des rapports très très intimes avec la Russie, en faisant abstraction qu'à l'époque, c'était un certain Staline qui était à la tête de la Russie. Donc il faut savoir de quoi on parle, et je pense que l'intérêt, la priorité aujourd'hui, c'est des accords de paix, de vrais accords de paix, et surtout pas tomber dans le piège des discours de Zelensky qui veut carrément déclarer une guerre entre l'Europe et la Russie, ce qui serait une folie absolue.
Messieurs, nous allons traiter de cette grève des médecins libéraux, justement, on parle des alternatives, on parle aussi, vous savez quoi, de cette ampleur, est-ce qu'elle a vraiment une mobilisation, cette ampleur? Et puis surtout, je voudrais aussi soulever la question de des solutions, parce que finalement, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas urgence, à la fois dans les hôpitaux, à la fois chez les médecins, et cette pénurie des médecins? Farid Aedz.
Ouais, on voit bien que là, c'est la continuité des difficultés qu'on a dans l'hôpital public, dans la santé en général, où de plus en plus de difficultés dans nos hôpitaux, on est obligé de fermer des services. On l'a vu pendant le Covid. Le gouvernement a décidé de fermer des lits. C'est-à-dire qu'ils en avaient fermé déjà avant. Mais on s'est dit pendant le Covid, au moins ils vont y réfléchir à deux fois. Non, ils ont fermé des lits. On voit bien qu'il y a une pénurie de médecins, d'infirmiers. On est obligé d'aller embaucher des infirmiers, des aides-soignants, etc. à l'étranger pour qu'ils viennent travailler ici.
C'était déjà le cas avant.
Ça se renforce. On le voit bien dans les propositions de loi immigration de Darmanin qui va présenter dans quelques semaines à l'Assemblée nationale, où là il veut faire des cartes de résidence pendant un an, c'est-à-dire à des infirmiers de venir pendant un an. On leur donne une carte de résidence pendant un an, et après un an, c'est plus sous fût tendu, on leur dit de repartir chez eux. Voilà. Alors, il faudra qu'on regarde le contenu de cette loi immigration, mais ça promet des choses difficiles. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a une pénurie de médecins. En même temps, c'est vrai qu'il y a des déserts médicaux. Et on le voit bien, nous, dans nos quartiers populaires, où il y avait des médecins de ville, médecins qu'on en a besoin, ces médecins-là, et qui partent et qu'ils n'arrivent pas à trouver
un remplaçant. De plus en plus.
Voilà. Et ils n'arrivent pas aussi à trouver des remplaçants, des jeunes, pour pouvoir s'installer, etc. C'est aussi la question aussi de comment on arrive à faire en sorte que c'est des pôles médicaux. C'est-à-dire que le médecin ne soit pas tout seul. Parce qu'on sait très bien qu'ils ont des charges quand même importantes et qu'ils n'arrivent pas tout seuls à assumer toutes ces charges-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail à faire et que malheureusement, on ne prend pas les choses dans le bon chemin. Et la dernière chose, les médecins libéraux, ils demandent quoi? Je crois 50 euros,
c'est beaucoup trop.
50. Voilà, je pense que c'est beaucoup trop. Parce qu'en même temps, quand ils demandent ça, qui va payer? c'est la sécurité sociale qui va payer.
Pas tout, justement, non.
Voilà. Et une partie,
non,
ça
non,
va
non,
être
non,
aussi,
pas tout, pas tout.
Ça va être aussi nous, parce qu'à un moment donné, on va payer. C'est-à-dire qu'on va payer, plus la sécurité sociale va payer.
Ouais. Jean-Pierre, comment vous travaillez de plusieurs choses, oui. Effectivement, on paye la politique du numerus clausus, qui était une folie absolue, qui était décision prise du temps de Giscard, dont on a loué la grandeur lors de son décès, qui était une folie absolue, pensant que s'il y avait moins de médecins, il y aurait moins de dépenses de la Sécu. OK, il y aurait moins de patients. Sauf qu'on se rend compte à quel point c'était une erreur. Autre chose, faire venir des médecins étrangers, quand on dit ça comme ça, on se dit, ah bah tiens, oui, pourquoi pas. Sauf que, un, on les paye beaucoup moins cher, on les rémunère beaucoup moins que les médecins formés en France. Et de deux, qui pensent au pays dont ils sont originaires et qui, eux, vont manquer à un moment donné aussi de médecins. Parce que c'est bien gentil de faire venir des médecins et des infirmiers de l'étranger. Mais les pays qui vont perdre ce personnel hautement qualifié, ils vont faire quoi ? Question toute simple. Ils vont faire quoi ? Voilà. Alors, est-ce que c'est la solution ? Ça, c'est des solutions de raccro. C'est des bouts de ficelle, des morceaux de scotch sur une jambe de bois. Ça ne résout rien. Il faut plus de 10 ans pour former un médecin. Et j'en parle en connaissance de cause. Ma fille est chirurgien. D'accord ? Il faut savoir que pendant le Covid et encore aujourd'hui, même quand elle est de garde, elle est appelée en renfort au service parfois des urgences pour compenser l'absence de certains médecins. Donc, on en est là. C'est des bouts de ficelle. On colmate des trous qui vont. Non, il n'y a pas de politique médicale depuis 30 ans. Macron découvre aujourd'hui, mais ça, je suis désolé, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, t'es secrétaire général de l'Élysée. Ça fait presque 10 ans que ce monsieur erre dans les couloirs du pouvoir. Et il découvre aujourd'hui qu'on manque de médecins. Ça n'est pas sérieux. Et c'est surtout un gros problème de vérité politique.
Philippe Ndjibouyaki, aïe. Bon.
Non, mais à un moment où t'as une épidémie de grippe, de Covid et de bronchiolite, je crois que c'est pas le meilleur moment, tu vois, lorsqu'on est responsable. Attention, je sais pas les incriminer.
Et des médecins nous écoutent. Hein.
Ouais. Non,
les libéraux.
Non, mais j'ai
ils peuvent intervenir au 0153483000.
Les médecins, il y a pas de souci là-dessus. Je dis juste que franchement, c'est pas le meilleur moment. Alors, je sais pas s'il y a un bon moment.
Ben voilà, c'est quand le moment.
Non, mais c'est pas ça.
C'est un peu dans les transports.
Non, mais on a des compatriotes qui vont mourir. Ouais, non, mais on parle de vie.
Ah non, il faut pas faire grève.
Ouais, mais
c'est le moment.
Ouais, mais non. Ouais. Non, tu vois, par exemple, là, je suis pas d'accord. Parce que t'as des gens qui gagnent pas beaucoup. Et qui toute l'année se serrent la ceinture, et le seul moment où ils peuvent kiffer leur life, c'est quand ils voient leurs petits enfants, c'est quand ils voient leurs enfants. Ouais. Et ça arrive quand ? Ça arrive à Noël.
Et donc,
lorsque t'es contrôleur, tu fais la grève du zèle, tu mets pas de PV, et à ce moment-là, crois-moi que la SNCF va entendre rapidement tes revendications, parce que quand tu tapes au porte-monnaie, là, tout de suite, on entend. Surtout que la SNCF a fait 2,2 milliards de bénéfices.
100% d'accord. Et j'aimerais que ce message. Non mais je serais d'accord. Moi, je suis à 100% d'accord aussi pour les transports en commun. Les transports. Là, j'ai payé ma carte Navigo, elle a augmenté de 10 euros.
Oui.
Ma carte Navigo pour des lignes qui fonctionnent mal. Alors, s'il y avait des mouvements de grève intelligents, je serais d'accord. C'est libre accès aux transports en commun pour justement les gens qui vont bosser, qui se lèvent tôt le matin, comme disait Sarko, la France de ceux qui se lèvent tôt le matin. Mais c'est ceux qui payent la carte Navigo
très
cher.
Oui, mais moi, je suis d'accord.
Paris-Dez. Dans le micro. Dans le micro, s'il vous plaît.
Je suis d'accord avec toi, Philippe, mais la SNCF veut pas ça. Parce que les contrôleurs, moi j'ai rencontré des contrôleurs, ils m'ont dit quoi les contrôleurs ? Mais nous, on va pas aller dans les trains. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Comme ils savent qu'il va pas avoir de contrôleurs dans les trains, ils suppriment les trains. C'est des malades.
Non, mais comme il a dit,
peu importe, mais là les gens se rendent en l'air contre la SNCF et pas contre les contrôleurs. Ce que je veux dire, c'est quand le mec il a travaillé toute son année pour pouvoir faire des cadeaux à ses petits-enfants et que tu les prives du seul moment, t'as des personnes isolées, t'as des personnes âgées qui ont traversé le
Covid. Je comprends ce que veut dire Philippe Ndjibouyaki.
Et la seule chose qui les maintient en vie, c'est le lien familial. Et là, tu dis, attends, tu vas pas avoir le lien familial. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Ouais. Et moi, je dis aux médecins.
Il faut des alternatives.
Faut des alternatives.
Faut le dire à la SNCF.
Non, faut le dire au contrôleur.
Bah, ça tombe bien.
Au contrôleur, leur dire, sollicitez vos collègues, et mettez plus de PV, vous allez voir, ça va bouger de manière assez énervée.
C'est pareil pour les contrats.
Oui, non, mais en même temps, je comprends Philippe Ndjibouyaki, parce qu'effectivement, en face, qu'est-ce qu'on a ? On a l'effondrement, paraît-il, des hôpitaux qui commencent à se prononcer.
C'est ça.
C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Paralysie, notamment.
Voilà, c'est leur collègue aux hôpitaux. Driss Etazaoui, que tu connais, a fait un poste. Son père a fait un AVC il y a 3 mois. Hier, il a eu une crise, il a été à l'hôpital. Il est arrivé à 23h, il a été vu qu'à 11h45 ce matin.
Ouais.
Qu'à 11h45, mais parce qu'il n'y a plus de médecins de ville. Et parce qu'il y a une pénurie de médecins de ville, et les médecins de ville ne prennent plus personne. Et puis que les gens se disent, écoute, moi j'ai la bobologie, je vais aux urgences, je suis sûr que de toute façon, quel que soit le temps, je vais avoir ma radio, je vais avoir mon souci.
Il était aux urgences hier soir, il est passé ce matin.
Ce matin.
Oui, mais Philippe, en même temps, regarde, l'hôpital de La Fontaine, à Saint-Denis, que je connais bien, ils sont en grève. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Des mois et des mois qui sont en grève.
C'est là où il y a un problème.
Ils sont pas entendus. Ils font grève, mais ils travaillent. ils font grève, ils ont leur tenue, etc. Ils font grève, mais ils ne sont pas.
Il
ne
faut pas oublier le nombre de manifestations de soignants qu'il y a eu dans les années précédentes. Rappelez-vous, il y a eu de grosses mobilisations de soignants. Ça n'a strictement rien donné parce que le gouvernement verrouille, parce que ça coûte cher les hôpitaux. Parce que le service public coûte cher et qu'ils ne veulent plus investir d'argent. On est actuellement gouverné par des gens qui ont un tableau Excel dans la tête, des ultralibéraux qui veulent réduire au maximum les coûts du service public. C'est ça là le fond du problème, entre autres.
Eh bien merci, c'était un débat très passionnant. Bel échange, je dois dire, ce soir. Merci à Farid Aed. Rappelons que vous êtes élu dans le 93. Pierre Fitt.
C'est ça.
À la fois élu dans la mairie, à la mairie.
Et député suppléant.
Député suppléant.
De Stéphane Peu à l'Assemblée nationale.
Absolument, la NUPES.
Exactement, merci.
Jean-Pierre Colombier, ancien commandant de la police, mais également aussi le porte-parole des policiers indépendants, une association libre.
Et qui eux aussi sont en colère.
Qui sont en colère.
Et bien sûr. Parce qu'ils savent ce qui va leur attendre, ils savent ce qui les attend à la rentrée.
Vous l'exprimez cette colère ?
Bien sûr, sur les réseaux sociaux, justement, les fameux réseaux sociaux. Oui. On l'exprime, on fait des mises en garde, en rappelant aux collègues sur le terrain qu'ils ont tout intérêt à faire attention aux ordres qu'on va leur donner. C'est ce qu'on avait déjà fait pendant les Gilets jaunes, et qui malheureusement n'a pas suffisamment été suivi d'effet.
Je vois là justement des gilets jaunes qui commencent à diffuser sur les réseaux sociaux. Là, mais les gilets jaunes s'expriment sur les réseaux sociaux là, justement.
Et je ne saurais trop encourager les messages à l'attention
sur la retraite.
Des blocs.
Regarde, ils disent rendez-vous tous à Paris. Tous à Paris, rendez-vous le 7 janvier. C'est ce que disent les gilets jaunes.
Il n'y aura pas que.
Philippe Nadjiboyaki en colère aussi, le conseiller régional.
Non, je suis en colère. Je suis
Europe Écologie au centre.
L'écologie au centre.
L'écologie au centre.
Écologie, derrière, ils vont changer de nom. Je vous le donne. Au printemps, ils vont s'appeler les écologistes.
Les écologistes.
Ça se ressemble plus près les escrologistes.
Ça va tout changer.
J'espère qu'ils vont pas faire un procès, mes anciens copains.
Vous récupérez Sandrine Rousseau ou pas?
Là, elle est accrochée comme un morbac. Je veux dire, pour la décrocher, là, Sandrine Rousseau, il va falloir y aller au Karcher. Mais Marie Tondelier a rappelé. Non. Ils ont sorti une motion. Et je pense que ça devrait s'appeler la motion Rousseau. Toute personne qui critiquera le parti sera limogée.
Ah, c'est bien, ça rappelle Staline, ça aussi.
Ouais.
Ah, c'est bien, merci, ça. Messieurs, merci à vous infiniment. Merci à la réalisation, c'était Anthony. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie infiniment. Time Sport, c'est à 21h.
Bilal
Nedman. Et puis ensuite, après, Vanessa à 21h. Non, 20h.
20h, Bilal.
20h, Bilal. 21h, Vanessa.
Vous avez
absolument.
Dit 21h,
dis-le. Pardonnez-moi, il est temps que j'aille me reposer, c'est ça. Ça voulait dire. À demain, avec autant de plaisir, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait ?
On ne lâche rien. Ouelou.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.